Europe 1. Europe 1.
Présidentielle américaine.
Inside the American election.
Europe 1, au cœur de l'événement.
Sébastien Krebs.
Soyez les bienvenus, le 5-7 démarre très largement consacré à la présidentielle américaine encore ce matin. Tout de suite, votre premier journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h sur Europe 1.
Après une longue nuit de décompte, il est clair que nous allons gagner assez d'États pour atteindre les 270 grands électeurs nécessaires pour gagner la présidentielle.
Joe Biden, remis en selle par les décomptes dans le Wisconsin et le Michigan, l'ancien vice-président des États-Unis commence à se voir vraiment président. Point complet, depuis New York, dans un instant, nous serons aussi à Washington avec des partisans démocrates aux abords de la Maison Blanche. Et puis le coronavirus encore à la une, car il atteint des visons. 15 millions de ces animaux vont être abattus au Danemark par prudence après des contaminations et une possible mutation du virus.
À suivre après le journal Les Sports, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs et nos artisans. On ira faire un tour à Rungis tout à l'heure. Bienvenue, il est 5h01, bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À participation exceptionnelle, dépouillement exceptionnellement long aux États-Unis. On a parlé de suspense, de surprise, d'un président sortant mieux placé qu'attendu. On va rejoindre tout de suite notre tour de contrôle qui ne dort jamais à New York. C'est vous, Xavier Yvon, bonjour.
Bonjour, bonsoir, je ne sais plus.
Xavier, le changement d'ambiance totale. Hein. Hier, à cette heure-ci, on entendait des partisans de Donald Trump qui commençaient à y croire. 24 heures plus tard et des millions de bulletins dépouillés depuis, Joe Biden s'est nettement rapproché de la majorité des grands électeurs.
Ah oui, au point d'être aux portes de la Maison Blanche, il a 264 grands électeurs en comptant l'Arizona que lui attribue l'agence AP qui fait référence. Vous savez qu'il en faut 270, on est donc plus très très loin. Dans la journée, Joe Biden a remporté deux grandes victoires, le Michigan et le Wisconsin, qu'il a donc repris à Donald Trump. Et ce qui s'est passé, c'est que le mirage rouge républicain d'hier a laissé la place à la réalité bleue démocrate. Hier, il manquait des millions de votes par correspondance, très majoritairement démocrates, et au fur et à mesure qu'ils ont été ajoutés dans la journée, eh bien les écarts qui paraissait énorme hier en faveur de Donald Trump, se sont petit à petit réduits et Joe Biden a même fini par le dépasser dans le Michigan et le Wisconsin. Donc, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. La Géorgie, au moment où on se parlait, nous, il y a 24 heures, Trump avait 370 000 voix d'avance. Là, maintenant, elle n'est plus que de 37 000. Elle a donc été divisée par 10. C'est énorme. La Géorgie n'est pas loin d'avoir terminé. On nous annonce des résultats d'ici une heure. Si Joe Biden passe devant Donald Trump en Géorgie, les jeux seront faits. Avec l'Arizona, il deviendra le 46e président des États-Unis. Sinon, il lui reste encore le Nevada et la Pennsylvanie qui n'ont pas non plus fini de compter. L'un des deux États suffit. La dynamique est donc clairement du côté de Joe Biden.
Alors Xavier, ça c'est pour le résultat du dépouillement. Minute par minute, on le suit grâce à vous. Mais depuis hier, Donald Trump et son équipe annoncent des recours juridiques. Qu'est-ce qu'ils entendent contester ?
Alors d'abord, ils demandent un recompte des votes dans le Wisconsin qui a été remporté de 20 000 voix par Joe Biden. Et puis le camp Trump a aussi déposé des recours pour stopper tout simplement le dépouillement en Pennsylvanie et en Géorgie. L'argument, c'est que ces bulletins qu'on continue à compter sortent de nulle part et qui sont illégaux, ce que même des figures du Parti républicain réfutent. Donald Trump a, c'est important à noter, a envoyé un tweet au ton inhabituellement résigné tout à l'heure en parlant de ces armées d'avocats qu'il est en train d'envoyer. Il a écrit « À quoi bon ? Le mal est déjà fait ».
On va voir comment les choses tournent tout au long de cette matinale. Xavier Yvon, on va vous retrouver tout au long de la matinée. Vous êtes en direct de New York, notre correspondant pour Europe 1.
On voit donc l'enjeu des heures ou des minutes qui viennent. Écoutez, cette déclaration de Joe Biden, faite dans la soirée, il affiche de la prudence, mais aussi de la confiance.
Ici, c'est le peuple qui choisit. On ne vole pas le pouvoir au peuple. Le peuple déterminera qui sera le président des États-Unis. Et le peuple seul. Désormais, après une longue nuit de décompte, il est clair que nous allons gagner assez d'États pour atteindre les 270 grands électeurs nécessaires pour gagner la présidentielle. Je ne suis pas ici pour déclarer que nous avons gagné, mais je suis ici pour vous dire que quand les décomptes seront terminés, nous croyons que nous serons les vainqueurs.
Joe Biden qui se voit en winner hier soir depuis son QG de Wilmington dans le Delaware.
Et partons maintenant pour Washington, la capitale fédérale des États-Unis.
Et Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante permanente sur place. Vous êtes en ce moment aux abords de la Maison Blanche et des démocrates rassemblés sur place sont dans l'attente.
Certains dansent, d'autres jouent de la musique, chacun patiente comme il peut. Des démocrates dont de nombreux jeunes étaient encore réunis hier soir sur la place Black Lives Matter, les vies noires comptent, aux abords de la Maison Blanche, dans l'espoir de connaître rapidement le nom du gagnant de l'élection. Pour l'instant, le rassemblement reste pacifique. Beaucoup sont venus avant tout partager avec d'autres ce moment historique, comme Vashti, un consultant de 24 ans qui a pris une semaine de congé pour l'occasion.
C'est une élection très importante pour les 4 prochaines années. Je ne me voyais pas aller au travail aujourd'hui et faire comme si de rien n'était. Je ne pense pas que nous avons besoin de manifester pour l'instant. Je manifesterai s'il continue de vouloir stopper le comptage des voix. Mais pour l'instant, pour jeter un coup d'œil, voir un peu quelle est l'atmosphère.
Les démocrates sont dans l'attente et même si nombre d'entre eux s'attendaient à ce scénario, le stress monte.
Nous sommes nerveux, oui, c'est clair. Il peut y avoir tellement de magouilles. Et je pense que c'est ce que notre président aime, les magouilles. Shenanigans.
Hier, Donald Trump a revendiqué la victoire bien avant la fin du dépouillement. Il a accusé les démocrates de fraude et réclame le recomptage des voix dans des états clés comme le Wisconsin ou la Pennsylvanie.
Sonia Dridi depuis Washington, et on va y revenir avec mon invité après le journal, Pierre Lemann. Il sera en ligne avec nous depuis New York. Il est directeur de l'Institut Ipsos en Amérique du Nord. Il est 5h06 sur Europe 1. Un nouveau cap franchi en France. Plus de 4000 malades du Covid sont en réanimation ou en soins intensifs dans les hôpitaux.
Oui, et la dernière fois que c'est arrivé, c'était le 28 mars. Nous étions 10 jours après le début du premier confinement. Nous voilà 10 jours après le début du deuxième. Et selon les données anonymisées et rassemblées par Google et Apple, eh bien les Français n'ont pas vraiment modifié leurs habitudes de déplacement, Clément Le Saffre.
Eh bien, grâce aux données d'Apple, on constate que le deuxième confinement est plus lâche que le premier. En mars, lors de la première semaine après sa mise en place, nos déplacements en voiture avaient chuté de 80% par rapport à la normale. Cette fois, on observe bien une baisse, mais elle n'est que de 40%, on utilise deux fois plus notre voiture. Même chose pour les transports en commun, chute de 90% en mars, et là, c'est plutôt 40%, et c'est encore plus frappant pour les déplacements à pied, baisse de 80% en mars, contre seulement 55% aujourd'hui. De son côté, Google mesure la fréquentation de certains lieux publics. Il manque encore des données, mais on peut déjà comparer le premier jour de chaque confinement. Et là aussi, on voit clairement que nous sortons plus. La baisse de fréquentation des commerces était de 60% le 30 octobre, contre 70% le 17 mars. Même tendance dans les parcs et les stations de transport en commun. Résultat, toujours selon Google, eh bien, nous passons un peu moins de temps chez nous qu'au printemps.
Clément Le Saffre, du service économie d'Europe.
Le coronavirus qui contraint le Danemark à abattre 15 millions de visons.
Oui, le Danemark, c'est le premier éleveur mondial de ces bêtes à fourrure. Et le pays fait face à des contaminations massives au Covid-19. Les autorités sur place s'inquiètent aussi d'une possible mutation du virus, Anne Le Gall.
Oui, c'est au nom du principe de précaution que le Danemark a choisi d'éliminer le plus vite possible la totalité des 15 à 17 millions de visons élevés sur son territoire. Les scientifiques le savent, ce petit mammifère est sensible au coronavirus. Il est facilement contaminé. D'ailleurs, des milliers d'abattages ont déjà eu lieu en Espagne ou aux Pays-Bas. Mais ce qui inquiète les autorités danoises aujourd'hui, c'est que chez eux, un coronavirus mutant a été repéré dans 5 élevages. Il a contaminé une douzaine de personnes. A priori, ce coronavirus mutant n'est pas plus dangereux, mais dans un contexte de recherche vaccinale, pas question de le laisser se multiplier, estiment les autorités danoises. Elles essaient de le bloquer à la source, m'a expliqué Jeanne Brugère-Picou, membre de l'Académie vétérinaire et de l'Académie de médecine, car le laisser dans la nature pourrait nuire à l'efficacité des futurs vaccins. Ces candidats vaccins ne tiennent pas compte de ce variant. Or, chez les visons, ils semblent plus résistants aux anticorps.
Anne Le Gall pour Europe 1. Juste un mot pour vous dire que L'Arabe du futur, tome 5, sort aujourd'hui. Célèbre bande dessinée autobiographique signée Riyad Satouf. Je dis célèbre car 3 millions d'exemplaires se sont vendus au total sur les 4 premiers tomes. C'est un phénomène d'édition en français et en 22 autres langues. Riyad Satouf, l'auteur qui sera l'invité ce soir du 18-20 de Julien Bugier sur Europe 1.
C'était le journal de François Geffrier. Il est 5h10.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Les Naïc Monnier pour les sports et à la une du journal des sports, la série noire qui se poursuit pour les clubs français en Ligue des Champions.
Trois équipes, trois défaites cette semaine. Niveau bilan, c'est médiocre. Hier soir, le PSG a subi son deuxième revers en trois rencontres, 2-1 à Leipzig. Paris a terminé le match à 9. Di Maria a raté un pénalty. Kimpembe en a provoqué un. Il a été expulsé après un rouge. Tout comme Gueye, les Parisiens restent donc à 3 points de Manchester United et de Leipzig dans ce groupe H. Alors est-ce que ça commence à sentir le roussi pour l'entraîneur Thomas Tuchel? On l'écoute.
Comme entraîneur à Paris, ça suffit jamais. C'est comme ça et c'est aucun problème pour moi. Aujourd'hui, c'était possible de faire match nul, c'était possible de gagner le même match. Et voilà, mais on joue pour les duels directs dans cette compétition. On a toutes les possibilités de gagner. On a eu toutes les possibilités aujourd'hui avec un carton rouge, c'était compliqué. Et voilà, mais on va réessayer, si on gagne au Parc. C'est totalement contraire la situation.
Thomas Tuchel avec Julien Froment.
Pas mieux, mais plus prévisible pour Rennes.
Oui, les Bretons découvraient Stamford Bridge et n'ont pas été déçus du voyage. Défaite 3-0 face à Chelsea, dont deux pénaltys, il a encore concédé. C'est la première fois que les trois représentants français pour la Ligue des Champions perdent dans une même semaine depuis octobre 2011. Et pour cette saison, Giroud, notre consultant, a peut-être une explication.
On vient de faire deux journées catastrophiques en Ligue des Champions. On vient donc, sur six matchs, de montrer qu'on est plus mauvais que tous ceux qu'on a rencontrés. Or, qu'est-ce qu'on a fait, nous, cette année, dans l'année 2020? On a mis nos joueurs professionnels, on les a enfermés chez eux, ou bien ailleurs, ceux qui habitaient loin, pendant 2 mois. Quand on arrête des athlètes de haut niveau de travailler pendant 2 mois, dans les mois qui suivent, ils sont moins bons que leurs concurrents qui ont continué de jouer tranquillement toutes les semaines, comme l'ont fait tous les clubs d'Europe, tous les pays d'Europe. Voilà, pour moi, c'est la première raison. On a affaibli notre football en affaiblissant tout notre effectif.
L'analyse de Giroud, consultant européen avec Lionel Rousseau.
Le chiffre du jour, c'est 1000.
Oui, comme la 1000e victoire en tournoi de Rafael Nadal. C'était hier à Bercy, 3 semaines après son 13e sacre à Roland-Garros. Il a battu Feliciano Lopez en 3 manches. 3 autres joueurs ont atteint ce cap symbolique dans l'ère Open et pas des moindres. Jimmy Connors, Roger Federer et Ivan Lendl. Côté français, pas de 1000e victoire, mais ça passe pour Marnarino. Fin de partie en revanche pour Gasquet, pour Bonzi et pour Herbert.
1000 victoires pour Rafael Nadal. Le journal des sports avec Lénaïque Mollier qu'on retrouve tout à l'heure pour le pressing. Vous restez pas loin, les Nagas, tout de suite.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
5h13 sur Europe 1, voici maintenant le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 409 Boss du Méloc. Avec plus de 860 000 euros de gains au compteur, il fait partie des meilleurs hongres au trot monté actuellement en activité. Lauréat de 3 courses de groupe cette année pour autant de tentatives, il a volontairement été ménagé cet été en vue de ce meeting d'hiver qu'il aborde en pleine possession de ses moyens. Dès lors, il devrait pouvoir, pour son retour à Vincennes, profiter pleinement de ce bel engagement. Notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 9, Boss du Méloc.
Merci Thierry Léger et on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1. The American Choice.
Sébastien Krebs.
Il est 5h15 sur Europe 1 et nous suivons toujours, minute par minute, les résultats qui s'affinent aux États-Unis. La course à la Maison-Blanche, Joe Biden tout proche d'obtenir la majorité des grands électeurs, 264 à ce stade. Il lui en faut encore 6 pour être désigné président. On attend des résultats, notamment dans l'état de Géorgie, dans les minutes qui viennent. Le Covid-19, la barre des 4000 patients en réanimation est de nouveau dépassée dans les hôpitaux français. La dernière fois, c'était le 28 mars. Et puis cette journée internationale contre le harcèlement scolaire, alors qu'on observe une nette hausse du nombre de cas ces derniers mois sur Internet. 26% de plus de faits signalés selon l'association e-Enfance. On en parlera à 6h15 avec mon invité inattendu.
Europe 1.
Allez. Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec ce matin Lénaïque Monnier et Paul Lassène. On va d'abord jeter un œil aux unes de vos journaux avec cette question. Qui point d'interrogation, c'est le titre du Figaro. Qui de Trump ou Biden, suspense total selon la dépêche du Midi. Big micmac pour Midi Libre. Concours de jeux de mots ce matin. La maison flanche. Voilà celui de Libération à la une avec le buste de Donald Trump. Le président entend utiliser toutes les ficelles pour forcer la victoire au risque de saper la démocratie américaine, écrit Libé. Biden y croit, Trump conteste, c'est aussi en une du Parisien. Le bras de fer, titre Ouest France, pour une poignée de bulletins. Voilà comment résume la situation sud-ouest. Et pour l'opinion, c'est le scénario noir quand la Croix met en première page le drapeau américain déchiré en deux. La fracture, c'est le titre, le même titre qu'ont aussi choisi les Échos ce matin. Voilà pour la presse française. Et on ira à New York tout à l'heure à 7h-10 pour votre revue de presse internationale. Ce sera une revue de presse américaine ce matin. Voici maintenant les trois histoires qui ont attiré notre attention. On va parler un peu d'autre chose quand même. Lénaïque, on commence avec vous, on change de sujet. Et on parle du télétravail qui concerne à nouveau beaucoup de salariés.
Oui, ça a du bon pour casser la chaîne de contamination. Mais il y a un revers à cette médaille, c'est l'augmentation du risque d'addiction. Le verre de vin qui vient récompenser la fin de la journée, les pots cigarettes multipliés, l'incapacité à décrocher ses mails. Voilà le quotidien de nombreux Français qui sont en télétravail. Le Parisien, aujourd'hui en France, sort ce matin une étude justement sur les risques pour les salariés de prendre ou de reprendre de mauvaises habitudes liées à la solitude, à l'isolement, au stress. Parce que travailler à la maison, ça n'a pas que des avantages. Plus de collègues, fin du lien social, des discussions à la machine à café, des revendications salariales même. Alors le journal s'appuie sur les chiffres du premier confinement et on apprend que 5,5 millions de Français ont consommé plus d'alcool après une journée de télétravail qu'après une journée dite normale. Ce qui fait craindre à 66% des salariés de reproduire la même chose pour ce deuxième confinement. Le chargé d'études explique dans Le Parisien que les addictions risquent d'exploser. Alcool, cannabis, anxiolytique, parce que quand on est dépendant, le regard des autres et donc des collègues est un frein permanent. Or, quand on est seul à la maison, le danger est plus grand. Pas besoin, par exemple, de se doucher, de se maquiller, ni même de s'habiller. Il faut donc surveiller les signaux. Oui, c'est un peu sombre. Hein. Mais quand vous buvez un verre le soir, est-ce que c'est un plaisir ou est-ce que c'est une façon d'évacuer le stress de la journée? Est-ce que vous le faites tout seul? Même questionnement pour la prise de cannabis ou de médicaments relaxants. Ça fait en fait de nouveaux paramètres. Ça fait réfléchir à gérer pour les entreprises, mais aussi pour les pouvoirs publics, évidemment.
Ouais, c'est pas anodin, le télétravail, effectivement. Surtout pour les gens qui vivent seuls, évidemment. Ouais. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire donc dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Paul, on revient sur la situation aux États-Unis et on le disait hier, il n'y avait pas que la présidentielle, il y avait aussi toutes sortes d'élections locales et parlementaires. Vous avez trouvé quelques élus un peu étonnants.
Oui, du Sénat, certains élus ont des profils surprenants, vous venez de le dire. C'est ce que nous racontent plusieurs sites d'information. Sur le plan politique déjà, Marjorie Taylor Greene, vainqueur en Géorgie ce mercredi, fera son entrée à la Chambre des représentants sous la bannière républicaine. Mais cette femme, elle est surtout connue pour être une adepte des thèses conspirationnistes de QAnon. Alors QAnon, c'est un réseau complotiste d'extrême droite qui a massivement soutenu Trump dans la campagne. Dans l'Arizona, cette fois, un duel aérien avait lieu, peut-on dire. La sénatrice républicaine Martha McSally, pilote de chasse de profession, a perdu son siège hier au profit de Mark Kelly. Bah, lui qui réalise l'exploit de voler encore plus haut que sa concurrente, puisque le nouveau sénateur élu est astronaute, un astronaute bien connu du public américain, puisqu'il était parti un an dans la Station Spatiale Internationale pour une mission exceptionnelle. Il a donc réussi son retour sur Terre. Enfin, à noter deux premières. Une élection très surprenante, celle de David Handal dans le Dakota du Nord. Il était touché par une forme grave du Covid-19 et il est tristement décédé après son hospitalisation le 5 octobre, il y a un mois. Mais ça n'a pas empêché les électeurs de son État de lui faire confiance et de l'élire. Cependant, son siège ne restera pas vide puisque le Parti républicain dans la loi a le droit de désigner un remplaçant. Enfin, une première réjouissante dans le Delaware. Les électeurs ont largement élu Sarah McBride pour les représenter au Sénat. Sarah McBride, eh bien, elle brise un plafond de verre puisqu'elle est la première personne ouvertement trans élue à un tel niveau dans l'histoire aux États-Unis. On l'a fait, on l'a gagné. J'espère montrer aux enfants LGBT que la démocratie est aussi pour eux. C'est ce qu'elle a déclaré très émue après sa victoire.
Et elle est élue dans le Delaware, qui est l'état de Joe Biden.
Absolument.
L'état où Joe Biden a été élu sénateur. Lui était le plus jeune à l'époque, il n'avait même pas 30 ans. Merci Paul. Je ne sais pas si les sondages avaient prédit que ces candidats seraient élus. En tout cas, sur le duel Trump-Biden, les instituts sont encore pointés du doigt pour n'avoir rien vu venir. Souvenez-vous, il y a trois jours, tout indiquait que Joe Biden gagnerait très largement. Les sondages, une nouvelle fois remis en question, c'est Libération qui écrit ce titre ce matin. Avant le vote, les instituts donnaient en moyenne 8,5 points d'avance à Joe Biden, un écart deux fois plus important à celui qu'ils accordaient à Hillary Clinton il y a 4 ans. Et surtout, ils avaient promis une chose, on a tout changé depuis l'erreur monumentale de 2016. Alors, en 2016, il s'était le plus trompé dans les États justement les plus importants, dans les swing states. Et cette année, dans ces États très importants, il donnait Joe Biden gagnant avec beaucoup d'avance. Mm-hmm. Bon, on le voit, c'est beaucoup plus serré aujourd'hui. Et dans l'Ohio, c'est tout l'inverse. Les sondages anticipaient une victoire de Trump sur le fil. Au final, il a gagné largement avec 8 points d'avance. Alors pourtant, après 2016, les sondeurs avaient fait leur mea culpa. Ils ont changé de méthode. Ils avaient plusieurs problèmes. Ils sous-estimaient les jeunes. Ils sous-estimaient les électeurs noirs. Et surtout, ils représentaient trop faiblement dans leurs échantillons les électeurs blancs peu éduqués des zones désindustrialisées. Donc ceux qui votent plutôt massivement pour Donald Trump, ceux-là ne répondent pas aux sondages par téléphone, ça leur pose problème. Du coup, on leur accorde désormais plus de poids dans les sondages. Voilà, visiblement, ça n'a pas été suffisant pour affiner. Et c'est une question que je poserai tout à l'heure à mon invité à 5h40.
Ouais, notre envoyé spécial aux États-Unis, Théo Manval, a tweeté hier à ce sujet en parlant des shy voters, ceux qui n'osent pas avouer qu'ils allaient voter pour Donald Trump et qui a pu tromper les sondeurs.
Ouais, et ça nous fait penser au vote Front National en France. À l'époque, ouais. Je dis Front National exprès parce que ça date un peu, mais à l'époque, les sondages n'arrivaient pas à prédire le vote FN. Alors pourquoi est-ce si difficile de prédire le vote Trump? On en parlera donc avec Pierre Lemann qui dirige Ipsos en Amérique du Nord. Il sera mon invité, allez, dans 20 minutes, tout à l'heure. Merci à tous les deux.
Merci.
Rideau sur le pressing du jour.
Simon Rubin vous informe sur Europe 1.
5h23 sur Europe 1, c'est l'heure des doigts dans l'assiette et on est à Rungis ce matin. Bonjour Gino Catena.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Impeccable.
Vous êtes notre
un peu compliqué, mais impeccable, voilà.
Vous êtes donc notre volailler à Rungis. On est passé en confinement depuis maintenant plusieurs jours. On en parlait un peu plus tôt dans la semaine. Les agriculteurs, les producteurs sont en première ligne pour continuer de nourrir, bien sûr, les Français, de continuer à tourner. Ça se manifeste à Rungis. Vous aussi, vous travaillez beaucoup là pour que tout le monde puisse trouver à manger.
Bah écoutez, oui, effectivement, on est dans l'attente de petits soubresauts qui nous font rêver pour Noël. Bon, voilà, donc on a plein de nos clients, là, ceux qui sont là, on les déchaîne, on s'en occupe. Et puis voilà, donc on distribue, on annonce les beaux produits pour fin d'année, puisque on a déjà fait les achats il y a quelques mois, puis là, automatiquement, on se retrouve avec... La deadline, c'est décembre, hein. Vous savez, c'est un très très gros mois pour nous.
Bien sûr. Voilà,
donc les chapons, les dindes, le foie gras, les truffes, tous les produits de qualité qui seront sur les tables de nos commerçants préférés.
Gino, on vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez reculer un tout petit peu peut-être de votre téléphone? Ça grésille un petit peu. On comprend que l'inquiétude, plus que de la situation d'aujourd'hui, l'inquiétude porte sur le mois de décembre si tout cela venait à durer, quoi.
Vous m'entendez mieux là?
Ah, c'est beaucoup mieux.
Ouais, c'est avec un micro porté. Je vous disais, donc effectivement, dans le mois de décembre, c'est compliqué, mais bon, on va faire face. On a les produits qui sont déjà achetés. De toute façon, nous, l'idée, c'est faire face mois par mois. Bon, les achats du mardi seront ceux de la fin de la semaine. Et puis, tous les achats de fin d'année, on sera heureux quand on aura tout fait à la fin décembre. Hein, les produits festifs, ouais. les jolis foie gras, les chapons, les dindes, les poulardes, voilà, donc... C'est un peu l'idée, c'est ce qui nous permet de nous tenir éveillés pour l'instant.
Ouais, et là, en ce moment, surcroît d'activité malgré tout, lié à ce confinement, est-ce que les gens font plus de courses?
Non, surcroît, c'est compliqué parce qu'en fait, du fait que toute la restauration est fermée, les grossistes qui achètent aussi chez nous et qui redistribuent à la restauration ne sont pas présents. Aujourd'hui, économiquement, il nous manque deux segments, deux pans économiques. Bon, on travaille avec nos bouchers, les charcutiers, les volaillers, les gens de marché, et puis un peu d'export. Et puis voilà, bon, ça c'est des, la vente, c'est ce qu'on appelle nous de la vente carreau, et heureusement qu'on a ça, puisque en fait, ça nous permet de pouvoir quand même s'en sortir. C'est pas top et loin de là, mais bon, on est présent, on est là, et puis on est surtout là, présent pour fournir les commerçants et faire rêver nos clients avec les beaux produits de fin d'année, quoi. Pas plus.
Ouais. Ils sont déjà commandés, les produits de fin d'année, on le comprend, et il va falloir les consommer, et on espère tous pouvoir les consommer le plus normalement possible pour ces fêtes de Noël. Merci Gino Catena, bon courage du côté de Rungis, et à très vite dans Les Doigts dans l'Assiette.
Merci beaucoup, à bientôt.
Il est 6h27 sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Laurent Cabrol, la météo du jour, c'est une journée plutôt agréable qui nous attend.
Bah oui, il n'y a pas grand chose à dire. Je dois quand même souligner que les températures sont encore un petit peu froides par rapport à hier, un peu moins. Moins 3 à Charleville en ce moment, 0 à Brive et Saint-Dizier, 1 à Lille, 3 à Nancy, 4 en banlieue parisienne, 5 à Toulouse, 6 à Paris-Ville, 7 à Clermont, 9 à Lyon et 15 à Nice. Voici les températures donc qui sont maintenant celles du petit matin. Dans la journée, entre 13 et 17 degrés, comme je le disais tout à l'heure à 5 heures, 13 et 17 degrés sera, disons, la fourchette nationale. Ce sont des températures tout à fait de saison. Allez, un petit 12 degrés quand même à La Rochelle, à Nancy et à Paris. Les brouillards sont là, ils ne sont pas nombreux pour l'instant. Et puis, que dire encore, bien rien d'autre, hein, que le soleil sera présent. Après dissipation des brouillards, il fera beau sur l'ensemble de la France. C'est une belle journée, unanime et pratiquement généralisée.
Mais on aime bien quand la météo se résume à ça. Il va faire beau. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe 1.
Présidentielle américaine.
Inside the American election.
Europe 1, au cœur de l'événement.
Sébastien Krebs.
La présidentielle américaine au cœur de cette matinale, à nouveau jusqu'à 9h sur Europe 1. Tout de suite, un nouveau journal complet. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
J'ai beaucoup d'espoir. On a besoin d'un leader comme lui. On a besoin d'un leader qui va nous unir et non nous diviser.
L'espoir des supporters de Joe Biden, conforté par les derniers résultats, ce n'est pas encore la victoire, mais ça y ressemble de plus en plus. Donald Trump, lui, refuse d'envisager la défaite. Il demande recomptage et suspension du dépouillement dans plusieurs États. En France, de nouvelles mesures plus sévères pourraient être annoncées face à un reconfinement qui n'est pas aussi bien respecté que le précédent. Et puis les failles des services de renseignement autrichiens après l'attentat de Vienne qui a fait 4 morts. Le terroriste avait tenté d'acheter des munitions en Slovaquie.
Après le journal, un premier invité pour mieux comprendre ces résultats qui s'affinent de minute en minute aux États-Unis. L'avance de Donald Trump qui s'érode d'un seul coup. Pourquoi ? Et pourquoi les sondages ont-ils tant de mal à prédire le vote Trump ? J'appellerai à New York Pierre Lehmann, le directeur général d'Ipsos en Amérique du Nord. Et puis ce sera La France Bouge. Bienvenue à tous, bon réveil, 5h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il est 23h30 sur la côte Est et les Américains ne connaissent toujours pas le nom de leur futur président. Malgré tout, avec les victoires dans le Wisconsin et le Michigan et l'avance dans plusieurs États, Joe Biden est en bonne voie pour remporter la présidentielle.
Et nous partons tout de suite au QG du candidat démocrate Lubna Anaki. Vous êtes à Wilmington, dans le Delaware. Les démocrates sont donc optimistes, mais tout va dépendre de l'issue des votes dans 4 États décisifs.
Oui, tous les regards des démocrates sont ce soir sur 2 états clés où Joe Biden est en tête, le Nevada et l'Arizona. Si ces 2 états passent au bleu, l'ancien vice-président n'aura même pas besoin de remporter la Pennsylvanie où le dépouillement pourrait prendre plusieurs jours encore et où Donald Trump veut saisir la Cour suprême. Hier, Joe Biden a une nouvelle fois appelé à la patience et réaffirmé son optimisme.
Je ne suis pas là pour dire que nous avons gagné, mais pour vous annoncer que lorsque le dépouillement sera terminé, nous pourrons croire en la victoire.
Un optimisme partagé ici à Wilmington, dans le fief de Joe Biden, après une première nuit difficile et stressante. Eunice Laffette tient une galerie d'art où le candidat démocrate est déjà venu plusieurs fois.
J'ai beaucoup d'espoir. Je soutiens Joe Biden que je connais depuis 37 ans. Il a du cœur. On a besoin d'un leader comme lui. On a besoin d'un leader qui va nous unir et non nous diviser.
Oui, à l'heure actuelle, selon les résultats partiels, Joe Biden est en tête dans le décompte des grands électeurs. La victoire à la présidentielle pourrait donc se jouer effectivement dans les prochaines heures.
Lubna Anaki en direct du QG démocrate dans le Delaware. En effet, si on part de l'idée que l'Arizona va bien être remportée par Joe Biden, il arrive à 264 grands électeurs. Il n'en manque donc plus que 6 pour l'emporter.
Du côté de Donald Trump, pas question d'accepter une éventuelle défaite. Les républicains veulent un recomptage des voix, et notamment dans le Wisconsin.
Ils ont aussi déposé un recours pour suspendre le dépouillement dans l'état clé de Pennsylvanie. L'un des fils Trump, Eric, a d'ailleurs pris la parole hier depuis Philadelphie. Comme son père, il parle de vol de l'élection.
Bon les amis, c'est de la fraude. C'est littéralement de la fraude. Nous l'avons déjà vécu à Philadelphie dans le passé. Ils essaient de nous voler l'élection. Mon père est devant, avec au moins 1,5 million de voix de plus. 86% des bulletins ont été dépouillés et il reste encore beaucoup de comtés républicains. Oui, énormément. Nous allons gagner la Pennsylvanie. Mais ils vont essayer de nous la voler, parce qu'ils savent que c'est leur seul moyen de gagner. Donc nous sommes ici aujourd'hui avec nos avocats et nous allons ouvrir une procédure en Pennsylvanie. C'est une honte qu'on ait à faire ça. C'est la dernière chose que mon père veut faire, mais c'est de la corruption rampante. Et ça ne peut pas se passer comme ça. C'est injuste.
Eric Trump sur CNN, et jamais autant d'Américains n'ont participé à cette présidentielle. 160 millions d'électeurs, soit une participation record de près de 67%.
On revient et on continue de décrypter tous ces chiffres et tous ces derniers résultats avec le directeur général d'Ipsos en Amérique du Nord, Pierre Lemann, qui sera mon invité juste après le journal. Il est 5h34 sur Europe 1. On en vient au Covid. Plus de 4000 malades en réanimation, près de 400 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures. Le gouvernement pourrait annoncé ce soir un durcissement des mesures pour lutter contre l'épidémie.
Et notamment un couvre-feu à 21h en région parisienne. Le confinement n'est pas aussi bien respecté qu'en mars-avril, d'où l'inquiétude et le coup de gueule de ce médecin, le professeur Gilbert Leray. Il est chef du service nécrologie à la Pitié-Salpêtrière.
Les 15 jours à 3 semaines qui viennent vont être très durs parce que les réas se remplissent à toute allure, parce que les hôpitaux se remplissent à toute allure, parce que nous avons déjà commencé à faire ce que nous voulions plus faire, qui est de déprogrammer. C'est pas parce qu'on annonce 500 morts ou 400 morts Covid, ce qui est déjà énorme, qu'il faut s'arrêter là. Hein. C'est des pertes de chance gigantesques pour les autres patients. La deuxième chose que je voudrais dire aux gens qui vous écoutent, c'est que pour l'instant, jamais dans ce pays, nous avons été obligés de choisir entre deux patients et que ça risque d'arriver. Nous avons échappé à cela en mars, avril, mai. Ça va nous arriver. Et que, imaginez ce qui va se passer quand un médecin va être face à deux personnes, une de 55 ans et une de 40, c'est qu'il va dire « je prends celle de 40 ». C'est ma mère, c'est ma grand-mère qui demain va pas pouvoir être sauvée. Et donc, dans ce contexte, je demande une solidarité complète des Français sur ce qu'on a mis en place. Ça passe par un respect très scrupuleux du confinement. Soit on va gagner ensemble, soit on va perdre ensemble.
Les mots très forts du professeur Deray, chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière, joint par Victor Delande. Conférence de presse du gouvernement sur la situation sanitaire tout à l'heure à 18h.
La France ne se bat pas contre l'islam. Les mots d'Emmanuel Macron ce matin dans une tribune publiée par le quotidien britannique, le Financial Times.
Le président s'inquiète et s'indigne d'un article qu'il accuse de stigmatiser les Français musulmans à des fins électorales. Il explique que la France combat le séparatisme islamiste, selon lui, terreau des vocations islamistes.
Et pendant ce temps, l'Autriche reconnaît des défaillances dans le suivi du terroriste qui a tué 4 personnes en plein centre-ville de Vienne, c'était lundi.
Il faut dire que le jeune homme de 20 ans était fiché S, surveillé, ça ne l'a pas empêché de bénéficier d'une remise de peine l'an dernier, et surtout les services de renseignement autrichiens semblent avoir négligé une information très importante venue de Slovaquie, Hélène Kohl.
C'est sur Facebook que la police slovaque a posté cette information hier matin. Le terroriste de Vienne est passé l'été dernier par la Slovaquie pour essayer d'acheter des munitions. Il faisait partie d'un groupe d'islamistes autrichiens, vite repéré par les renseignements slovaques, parce qu'il leur manquait des papiers officiels pour justifier leur achat et ils sont repartis sans munitions. Les Slovaques affirment avoir toutefois alerté leurs collègues de l'autre côté de la frontière en Autriche. C'est exact, reconnaît le ministre autrichien de l'Intérieur, mais il y a eu un problème de communication en interne et l'information s'est perdue. Il fait reposer la faute sur son prédécesseur. Mais la polémique monte, car c'est la deuxième grosse panne révélée par l'enquête. Mardi, le ministre avait déjà dû reconnaître que ses services avaient été bernés par le terroriste, qui leur a fait croire qu'il était en train de se déradicaliser alors qu'il se préparait à passer à l'acte.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Et puis le football, encore une mauvaise soirée pour les clubs français en Ligue des Champions. Le PSG a été battu en Allemagne par Leipzig 2-1 et Rennes écrasé en Angleterre par Chelsea 3-0.
On y reviendra dans le journal des sports de Lénaïque Monnier tout à l'heure, juste après le journal de 6h. C'était Hélène Zellani sur Europe 1, il est 5h38. Les courses avec vous, Thierry Léger. Quels sont vos pronostics pour le Quintet ?
C'est sur l'hippodrome de Vincennes que se disputera ce quintet, 16 partants sur 2100 mètres et sur ce parcours de vitesse. Il faut privilégier les chevaux s'élançant en première ligne derrière l'autostart. Ainsi, les numéros 1 Sobel Conway, 3 Desperado et 7 Woolwood à Love qui ont hérité tous les 3 d'une position idéale derrière ce mode de départ et dont l'aptitude à ce type de tracé est certaine, me semble être ici 3 points d'appui solides. Ils devront toutefois se méfier de Martin de Bosse, le numéro 14. Certes moins bien loti en deuxième ligne, mais il s'agit d'un trotteur très doué, n'ayant certainement pas les gains en rapport avec ses moyens. Ensuite, je vous recommande les numéros 4, Capital Charme, qui ne sera pas éternellement malheureux, 12, Confidence, jamais plus loin que 3e lors de ses 4 dernières courses, et 2, Aramis Dea, le doyen de ce quintet, qui à l'âge de 10 ans n'a jamais été aussi performant. Enfin, le numéro 9, Douxor de Guèze, complétera ma sélection. Mon pronostic, As, 3, 7, 14, 4, 12, 2 et 9.
Merci Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur Europe1.fr.
Europe 1.
Europe 1. Europe 1. The American Choice.
Sébastien Krebs.
Il est 6h20 sur Europe 1. Le premier invité de la matinale est en ligne avec nous depuis New York. Bonjour Pierre Lemann.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes le directeur général de l'Institut Ipsos en Amérique du Nord. On va essayer ensemble d'y voir un peu plus clair, en tout cas le plus clair possible dans ce qui est en train de se jouer et dans ces résultats qui s'affinent. Alors on en est où ce matin? Est-ce que selon vous, Joe Biden a raison quand il dit qu'au bout du bout, quand on aura tout compté, il sera le vainqueur? Il avait l'air assez convaincu et sûr de lui cette nuit.
Mais on est toujours sur le même scénario que, disons, le milieu de la nuit dernière. Donc c'est vrai que sa victoire est en train de se dessiner. Elle n'est pas acquise, mais disons qu'aujourd'hui, on est maintenant à 70% de chance pour une victoire de Biden. Il est plus très loin. Il faut gagner encore, disons, 6 voix, 6 grands électeurs, si on considère que l'Arizona est quasiment dans la poche, et il a été annoncé par Fox déjà il y a 24 heures. Hein, donc on est tout près, disons, de la confirmation sur l'Arizona. Donc il manque 6 voix. Il peut les gagner de différentes manières. Il y a le Nevada. Alors le Nevada, ils recommenceront à compter dans la matinée demain. Alors, évidemment, comme ils sont à l'ouest, ça va prendre un peu de temps. Mais vers midi, 1h, heure de New York, donc vers 6h, 7h, heure de Paris, ce soir, on en saura plus. Et il reste toujours la Pennsylvanie, donc il y a le plus gros État qui reste encore en jeu, où progressivement il remonte, comme c'était prévu, hein, puisqu'on savait que les grandes villes sont dépouillées un peu plus tard, donc Philadelphie, Pittsburgh arrivent progressivement.
Mais le c'est ça, ça se resserre, aussi. Ça se resserre, et c'est un retournement spectaculaire par rapport à ce qu'on disait ici même hier matin, où on voyait l'avance de Trump grandir dans un certain nombre de ces États. Comment on explique cette remontada démocrate dans la deuxième partie du dépouillement?
Alors, c'était complètement prévu, hein, puisque on sait que le vote par correspondance, par exemple, est un vote essentiellement démocrate. Presque les 2/3 des démocrates ont voté avant l'élection, c'est-à-dire avant la journée de mardi, alors qu'il y a seulement 1/3 des républicains qui l'avaient fait. Pourquoi ? Déjà, traditionnellement, c'est un peu le cas. Les républicains, souvent, sont plus dans des zones rurales où il est plus facile d'aller voter sans faire la queue pendant longtemps. Et là, avec le Covid, évidemment, ça a été renforcé. Donc, on savait très bien que petit à petit, les démocrates allaient remonter. C'est comme ça à chaque élection. C'était déjà comme ça en 2016. C'est comme ça pour toutes les élections. Donc, il n'y a pas de grande surprise. Et d'ailleurs, Trump le sait tellement bien que depuis 2 ou 3 mois, il est entré dans une espèce de campagne contre le vote par correspondance, sachant très bien qu'à un moment, sa victoire semblerait logique, mais que le vote par correspondance arrivant progressivement, les choses deviendraient de moins en moins claires pour lui.
Et donc voilà, il le sait très bien au moment où il prend la parole hier pour se déclarer vainqueur. Il se déclare vainqueur juste avant ce retournement de situation. À ce moment, il sait très bien que les choses vont se gâter.
Tout à fait. Il le sait depuis le début. Il sait exactement, parce qu'on suit les dépouillements comté par comté. Donc il faut voir ça un petit peu comme des circonscriptions. Et donc on sait très bien à ce moment-là qu'il a fait un peu le plein de ses voix dans un certain nombre d'États et que donc Biden va remonter. Cela dit, c'est pas encore joué non plus, hein, parce que on est à très peu de voix d'avance par exemple dans le Nevada, et puis en Pennsylvanie, pour l'instant, Trump a encore à peu près 2,5 points d'avance sur Biden, alors qu'on a dépouillé à peu près 90% de l'État. Mais dans les 10% qui restent, Il y a la place pour que Biden rattrape Trump, mais c'est pas fait. C'est pour ça que je dis on est à 70% de chance, mais c'est pas encore fait.
Et en plus, Donald Trump va utiliser toutes les voies de recours possibles, on le comprend. Il demande à recompter les voix, par exemple dans le Wisconsin où il est déclaré perdant. Et il pointe les failles du vote par correspondance, notamment en Pennsylvanie. Il est fiable ce vote par correspondance ou est-ce qu'il y a vraiment des failles dans lesquelles il peut s'engouffrer devant la justice ?
Il est démontré par des élections précédentes qu'en fait le taux de fraude est extrêmement faible. Ce qui se passe en Pennsylvanie, c'est que la Pennsylvanie a décidé, parce que vous savez, chaque État fait un peu comme il veut aux États-Unis dans une certaine mesure, dans un certain cadre. Et ce qui a été décidé par la Pennsylvanie, c'est que les votes seraient acceptés jusqu'à 3 jours après l'élection à partir du moment où ils ont été postés. Ou plus tard, le jour de l'élection. Bon, donc, c'est un point...
Mais ça, c'est contestable devant la justice ?
Pour l'instant, la Cour suprême ne s'est pas considérée comme devant trancher cette situation ou ce cas, parce que tout ça doit passer déjà par la Cour suprême de Pennsylvanie. Donc, c'est en théorie contestable. En pratique, très peu.
Alors vous dirigez Ipsos aux États-Unis, Pierre Lemann, et plus généralement en Amérique du Nord. Vous, le sondeur, comment vous expliquez que les instituts aient tant de mal à mesurer les intentions de vote aux États-Unis ? On l'a vu, tous les sondages donnaient une avance très confortable à Joe Biden. C'est pas du tout le cas dans la réalité, ça ne se passe pas comme prévu.
Nous, notre scénario central a toujours été que Biden gagnerait de relativement peu, parce qu'on connaît le système électoral américain. On a prévu une avance assez large dans le vote populaire, c'est-à-dire le nombre d'Américains qui, à l'échelon des États-Unis, voteront pour Biden. Et c'est le cas. Il va certainement gagner cette élection par au moins 4 points d'avance sur Trump.
Les sondages lui ont donné 8 populaire. Hein, en moyenne.
7 pour nous, oui. Alors, c'est peut-être il sera un peu en dessous, mais vous savez, c'est pas encore terminé parce que les dépouillements sont progressifs. Par exemple, la Californie met généralement un mois pour finir de dépouiller l'ensemble de ses votes. Et comme ça n'a pas une grande importance puisqu'on sait déjà qu'en Californie...
Donc vous nous dites que les sondages ne se sont pas tant trompés que ça ?
Non, nous, c'est notre scénario central. Donc on a dit depuis le début que... Le scénario le plus probable, c'est une victoire étroite de Biden pour la Maison-Blanche et que les démocrates n'arriveraient pas à remporter le Sénat. Donc c'est en gros ce qui semble se produire. Alors, on n'a jamais non plus exclu complètement une victoire de Trump. On a qualifié la probabilité d'une victoire de Trump de 20%, une victoire légère. Pourquoi ? Parce que Trump a conservé quand même un taux de soutien dans l'opinion qui était assez fort. Il a toujours été aux alentours de 40-42% pendant tout son mandat. Ce qui est, pour un président sortant, pas exceptionnel, mais pas non plus catastrophique. Les deux seuls présidents depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis Edgar Hoover, donc c'est même avant Roosevelt, les deux seuls présidents que n'ont pas réussi à se faire réélire, c'est Jimmy Carter et George Bush père, et les deux avaient des taux de soutien d'inférieur à 35%. Donc Trump était au-delà de ça, et donc pas forcément en très mauvaise position pour se faire réélire. Et c'est le Covid quand même qui l'a... mis dans la difficulté et sans le Covid, on peut penser quand même que Trump aurait pu
être réélu. Merci beaucoup Pierre Lemann pour votre éclairage ce matin en direct depuis New York, directeur général de Ipsos en Amérique du Nord. Très bonne journée ou très bonne nuit plutôt à vous à New York. Merci.
Bonne journée.
Il est 5h46 sur Europe 1 et on va mettre en lumière, comme chaque matin, ceux qui font bouger la France. Avec vous, Lénaïque Monnier, où est-ce qu'on va ce matin ?
On va dans le Tarn à Anglès, à la découverte d'un garage solidaire tenu par des travailleurs handicapés. Ça fait du lien local et de l'inclusion, c'est tout bénef pour le village.
Et on verra ce qui se joue aussi sur les réseaux sociaux avec Paul Lassen. A tout de suite, vous êtes sur Europe 1, il est 5h47.
Europe 1. Europe 1. Europe 1. The American Choice. Sébastien Krebs.
Il est 5h48 sur Europe 1 et Joe Biden se rapproche peu à peu de la Maison-Blanche. Les résultats dans plusieurs États restent en suspens et certaines choses pourraient être annoncées dans les toutes prochaines minutes. Le candidat démocrate atteint 264 grands électeurs sur 270. Il ne lui en manque plus que 6. En face, Donald Trump déclenche l'offensive judiciaire. Il demande un recomptage, notamment dans le Wisconsin, et même la suspension du dépouillement dans l'état très disputé de Pennsylvanie. En France, le Parlement autorise le retour temporaire des néonicotinoïdes, des insecticides tueurs d'abeilles, pour sauver la filière betterave. Ultime vote du Sénat hier. Et puis, reconfinement à partir d'aujourd'hui en Angleterre et jusqu'au 2 décembre. Écoles et universités vont rester ouvertes. Cafés, pubs, restaurants et commerces non essentiels ferment, sauf pour la vente à emporter.
Écoutez le monde changer
avec Sébastien Krebs sur Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente La France bouge. Caisse d'épargne, vous être utile.
Et c'est Lénaïque Monnier qui met en valeur ce matin ces bonnes idées qui changent la vie quotidienne à travers la France. Alors ce matin, on est dans le Tarn et on joue les mécanos, Lénaïque.
Oui, direction Anglès où depuis un moment, il n'y avait plus un garage à la ronde. Personne en fait n'avait repris le relais quand les garagistes du coin sont partis à la retraite. Et on le sait, hein, c'est difficile de vivre dans une région où la voiture reste le moyen de transport le plus commode. Les villages, les commerces, les lycées sont parfois à une bonne vingtaine de minutes les uns des autres.
Et c'est là qu'intervient Laurent.
Qui est moniteur et éducateur et surtout passionné de mécanique. Il a donc décidé de joindre l'utile à l'agréable en ayant cette idée, faire travailler des personnes handicapées qu'il avait à charge, dépendantes ou fragilisées. Alors ça a pris du temps, hein, pas loin de 7 ans. Et aujourd'hui, le projet fonctionne comme un vrai garage. Il emploie une douzaine de personnes qui ont suivi une formation appropriée. Et on y trouve évidemment les services classiques, l'entretien, le montage des pneus, le remplacement des batteries, les vidanges, etc. Le projet a été soutenu par la commune d'Anglès, la communauté de communes et aussi la préfecture.
Et au final, tout le village est content.
Oui, parce que Laurent finalement a rétabli un service de proximité pour les habitants. Cette activité a aussi dynamisé la vie du village. Ça a cassé la spirale d'isolement qui, par exemple, empêchait les maires du coin d'organiser des événements. L'autre bénéfice de ce garage solidaire et inclusif, eh bien, c'est évidemment de permettre aux personnes handicapées de faire valoir leur savoir-faire, leurs compétences, valoriser ces travailleurs et aussi, et c'est le plus important, changer le regard des autres sur le handicap par le contact avec la clientèle.
Et c'est peut-être le plus important encore. Bravo, ce garage donc solidaire et inclusif à Anglès, c'est dans le Tarn. Merci Lénaïque Monnier. Les réseaux sociaux à présent. Avec vous, Paul Lassen, et on repasse en anglais presque, puisque ce dépouillement se joue aussi sur les réseaux sociaux.
Oui, les principales figures de la droite, ainsi que des millions de militants croient à un complot démocrate pour voler l'élection. Et ce sentiment, il l'exprime avec un message republié à l'infini sur des milliers de comptes Facebook, Twitter ou Instagram depuis hier avec le hashtag « Stop the steal ». Arrêter ce vol.
Un mouvement qui a débuté avec plusieurs vidéos tournées dans des bureaux de vote.
Oui, par exemple avec une en Arizona. Et dedans, on affirme sans preuve que les bulletins républicains ont été marqués en amont pour ne pas être comptabilisés. Une vidéo vue et partagée plusieurs centaines de milliers de fois. Plein d'autres cas relayés aussi par des partisans de Trump, voire même par des proches du président sortant. Par exemple, par l'un des responsables de sa campagne qui s'insurge sur la vidéo d'une femme dans la rue postant un gros paquet de lettres. Elle bourre littéralement les urnes à Philadelphie, écrit-il. Sauf qu'en l'occurrence, les lettres postées sont beaucoup plus grosses que les bulletins de vote. Autre exemple, en Pennsylvanie, est à clé ce matin encore, où un militant républicain a affirmé avoir dû jeter des centaines de bulletins Trump, une info démentie par les responsables du comté. Sauf qu'entre-temps, le mal était fait puisque le message avait été relayé par un activiste pro-Trump et partagé près de 10 000 fois avant d'être supprimé par Twitter.
Et tout cela est entretenu par Donald Trump lui-même, et on l'a entendu tout à l'heure, par son fils qui, en Pennsylvanie, justement, parle de fraude massive. Et la vague ne s'est pas arrêtée avec la fermeture des bureaux de vote.
Non, elle a continué à déferler après le discours de Trump hier matin depuis la Maison-Blanche, discours dans lequel il parlait d'une fraude majeure dans les États où les résultats ne lui étaient pas favorables. On en parlait déjà hier matin, Sébastien. Mais on a l'impression que plus que jamais, Facebook et Twitter ont joué et joueront un rôle majeur dans la fin de cette élection américaine.
D'ailleurs, quand Trump a tweeté pour la première fois en parlant de fraude, les démocrates veulent voler l'élection, c'était dans la première nuit électorale, Twitter a signalé ce tweet qui n'apparaissait plus.
A d'abord supprimé un premier tweet avant de signaler le second, absolument.
Les réseaux sociaux, merci. Tous les matins, avec Paul Lassen. Merci, il est 5h54. Ondelat raconte tous les jours à 14h. C'est une semaine américaine, là aussi, avec Christophe Ondelat. Christophe qui vous raconte les grandes histoires qui ont marqué l'Amérique. Celle du jour, c'est celle d'Apollo 11, le bond géant pour l'humanité le 16 juillet 69, lorsque les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins embarquent à bord de Saturn V, direction la Lune. Armstrong pose le premier, le pied sur la Lune. Le récit Ondelat raconte à 14h sur Europe 1, mais dès maintenant en podcast sur europe1.fr.
Europe 1. Et
on ouvre maintenant la partition d'Omblin Roche, comme tous les matins, l'histoire derrière une chanson ou un artiste. Et ce matin, un anniversaire, l'anniversaire d'un album paru il y a très exactement 33 ans. Omblin, c'était le cinquième album de Jean-Jacques Goldman, entre gris clair et gris foncé.
Un mot du contexte d'abord, Sébastien. Les mois précédents cette sortie, Jean-Jacques Goldman a écrit la chanson des Restos pour Coluche. Il a réalisé l'album Gang de Johnny Hallyday. Il est élu chanteur de l'année aux Victoires de la musique. Bref, un boulevard s'ouvre devant lui.
Alors vous dites que Jean-Jacques Goldman est au sommet de la gloire en 1986 et pourtant il est tiraillé par le doute.
Je me demande si un artiste n'a pas tout dit en quatre albums. Ouais, c'est ce qu'il dit lui. Il se pose beaucoup de questions à l'approche de la quarantaine et se sent en décalage avec les jeunes.
Et donc, contre toute attente, il ne sort pas un simple album, mais un double.
Ouais, imaginez, 20 chansons, il en avait déjà écrit. Certaines au milieu des années 70, des chansons plus intimes laissées de côté qu'il veut faire désormais entendre. Quand je frôle la lumière, qu'un instant je la tiens, avec ma guitare à la main, j'ai peur de rien.
Alors avec entre gris clair et gris foncé, Jean-Jacques Goldman prouve qu'il n'est plus seulement un formidable mélodiste.
Ouais, les quatre disques précédents lui ont montré à quel point le public était sensible au texte et il prend la liberté de décliner les thèmes qui lui sont chers, la différence, la séparation, mais aussi l'envie d'ailleurs.
Et pour la chanson « Là-bas », Jean-Jacques Goldman n'arrive pas à trouver la voix féminine pour l'accompagner.
Oui, après avoir écouté des dizaines de cassettes, rien. Un ami musicien lui parle alors de cette jeune Britannique qui chante dans le métro. Jean-Jacques Goldman est subjugué et ce qui lui plaît d'autant plus, c'est que Sirima réfléchit avant d'accepter.
Ne va pas, il y a des tempêtes et des naufrages, le feu, les diables et les mirages, je te sais si fragile parfois.
Jean-Jacques Goldman baptise l'album à la toute fin de sa conception.
Oui, comme à chaque fois, hein, finalement. Entre gris clair et gris foncé, le point commun de tous les textes, c'est le refus du manichéisme et les chaises vides de la pochette nous invitent à nous asseoir là où on a envie de choisir d'écouter la chanson qu'on aime. C'est lui qui le dit. Je comprends qu'on ne puisse pas l'aimer entièrement parce qu'il a trop de titres. Il en vendra quand même plus d'un million.
Il faudra que tu sois douce et solitaire aussi. Il te faudra gagner pouce à pouce les oublis de la vie. Tu seras jamais la reine du bal vers qui se tournent les yeux éblouis. Pour que tu sois belle, il faudra que tu le deviennes, puisque tu n'es pas née jolie. Il faudra que tu apprennes à perdre, à encaisser tout ce que le sort ne t'a pas donné. Tu le prendras toi-même. Oh, rien ne sera jamais facile, il y aura des moments maudits. Oui, mais chaque victoire ne sera que la tienne, et toi seul en sauras le prix.
Ta chance, Jean-Jacques Goldman, extrait de son album entre gris clair et gris foncé.
Oui, cet album sorti il y a 33 ans, vous avez noté, hein, Jean-Jacques Goldman en 1987 a une voix qui a pris plus de densité entre gris clair et gris foncé, sorti le 5 novembre 87.
L'histoire derrière la musique, c'est tous les jours avec Omblin Roche, la partition. À demain.
À demain.
Et avant le journal de 6h, on retrouve Laurent Cabrol avec des bonnes nouvelles, Laurent, ce matin.
Ouais, mais on va le chanter, hein, quand la météo est bonne. entre gris clair et bleu foncé. Allez, c'est un peu nous pouvons résumer la journée d'aujourd'hui, puisque le gris clair, c'est ce matin en raison des brouillards, et le bleu foncé cet après-midi, car le ciel sera dégagé sur l'ensemble des régions de France, avec des températures qui, à l'heure actuelle, sont encore basses, entre moins 3 et plus 6 degrés. Ce sont les températures un peu moins basses qu'hier, mais enfin, il y a quand même tout de même des gelées blanches, et il y aura peut-être un peu de verglas, j'en reparlerai. Dans l'ensemble, il faut bien le dire, le temps est sec et il restera sec, hormis une petite poussière nuageuse dans le golfe du Lion. Mais vraiment, ce sera une belle journée d'hiver ou une belle journée d'automne, comme vous voulez, à partir de 11h midi, quand tous les brouillards se seront envolés. Envole-moi, oui d'accord. 11 degrés à Lille, température maximale, 12 degrés à Paris, 13 à Caen, 15 à Bordeaux, 16 à Bayonne et 19 à Albi cet après-midi. Voilà.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe 1.
Présidentielle américaine.
Inside the American election.
Europe 1, au cœur de l'événement.
Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, merci de nous rejoindre. Nous continuons à suivre ce qui se passe, la situation aux États-Unis. Les choses se dessinent peu à peu. Tout de suite, un nouveau journal avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est précisément 6h.
Nous serons victorieux. Mais ça ne sera pas ma victoire. Ce sera une victoire pour le peuple américain, pour la démocratie, pour l'Amérique.
Proche de la victoire, Joe Biden, stature de rassembleur d'une Amérique divisée, le démocrate pour l'heure devant Donald Trump, mais on dépouille encore les bulletins dans certains États. Alors le scrutin peut-il encore basculer? Si oui, ou point complet dès le début du journal en direct de New York, Donald Trump saisira la justice s'il est battu. Dans ce journal, respectons-nous suffisamment le reconfinement? Il semblerait que non, selon les données de nos déplacements, du jamais vu depuis avril, plus de 4000 malades en réanimation. Et puis Emmanuel Macron se saisit personnellement de la question migratoire, appelant lui-même directement ses homologues étrangers. Révélation Europe 1 de Louis Dragnel dans ce journal.
Après le journal, mon invité inattendu et un témoignage ce matin à l'occasion de la journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire. C'est une ancienne Miss France qui a décidé de raconter ce qu'elle a elle-même subi à l'école. Je l'appelle dans 10 minutes. Et puis on retrouvera Fanny Agostini pour Notre Planète. Bon réveil, 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il est minuit sur la côte Est et plus de 24 heures après le vote, l'Amérique n'a toujours pas de président, suspendu au bulletin qu'on dépouille encore dans certains États.
Et on retrouve tout de suite Xavier Yvon à New York. Xavier, à l'heure où on se parle, 214 grands électeurs pour Donald Trump, 264 pour Joe Biden, si on compte l'Arizona qui va très probablement basculer démocrate, même si ce n'est pas encore tout à fait officiel. Alors il en faut 270 pour gagner. Est-ce que le scrutin peut encore basculer ?
Alors oui, puisque le dépouillement est encore en cours dans 3 voire 4 États, hein, si on pense à l'Arizona, 4 États indécis. Hein, alors que oui, il reste un chemin, comme on dit ici, pour Donald Trump vers ses 270 grands électeurs, mais c'est un chemin extrêmement étroit. Il doit remporter tous les États qui dépouillent encore. Celui qui a un boulevard, c'est Joe Biden. Il lui suffit d'un seul de ces États en train de dépouiller pour l'emporter. Ça pourrait être la Géorgie. On attend ses résultats bientôt, dans les prochaines heures. Joe Biden a remonté son retard de manière spectaculaire dans cet État du Sud. L'avance que Donald Trump avait il y a 24 heures a été divisée par 10. Et à mesure qu'on comptait les votes restants, hein, ceux par correspondance, le démocrate espère donc renverser la tendance et gagner la Géorgie, comme il l'a fait plus tôt avec le Michigan et le Wisconsin. Si c'est pas la Géorgie, ça peut être encore le Nevada ou la Pennsylvanie. Joe Biden a d'ailleurs affiché son optimisme dans une déclaration hier après-midi. Quand le dépouillement sera terminé, nous pensons que nous allons gagner, a dit l'ancien vice-président, qui donc pourrait bientôt devenir le 46e président des États-Unis.
Alors Xavier, si Donald Trump est battu, c'est une séquence judiciaire qui va s'ouvrir. Il entend contester sa défaite. De quelle manière ?
Alors d'abord, le camp Trump a demandé un recompte des votes dans le Wisconsin qui a été remporté de 20 000 voix par Joe Biden. Et les avocats du président ont déposé des recours en justice pour stopper le dépouillement en Pennsylvanie et en Géorgie, là où l'avance du président est en train de fondre à mesure qu'on dépouille donc les derniers bulletins. L'argument, c'est que ces votes sortent de nulle part et sont illégaux. C'est faux. Même des figures du Parti républicain refusent de suivre le président sortant sur ce chemin.
Xavier Yvon, en direct de New York. Le dépouillement continue. Vous nous rappelez, dès lors qu'il y a de nouveaux résultats, on vous retrouve tout au long de la matinale jusqu'à 9h.
Avantage Joe Biden, donc le candidat démocrate confiant. Il l'a dit cette nuit, s'il est élu, il entend réconcilier une Amérique que cette dure campagne a divisée comme jamais.
Nous, le peuple, nous ne serons pas réduits au silence. Nous, le peuple, nous ne nous ferons pas intimider. Nous, le peuple, nous ne renoncerons pas. Mes amis, Je suis confiant. Nous serons victorieux. Mais ça ne sera pas ma victoire ou notre victoire. Ce sera une victoire pour le peuple américain, pour la démocratie, pour l'Amérique. Et il n'y aura pas d'État bleu ou d'État rouge quand nous aurons gagné. Juste les États-Unis d'Amérique.
Et Joe Biden qui s'engage par ailleurs à rejoindre l'accord de Paris sur le climat que les États-Unis ont quitté officiellement hier sur décision il y a plusieurs mois de Donald Trump. Partons pour Washington, capitale fédérale aux abords de la Maison-Blanche.
Cette ville littéralement barricadée. Hein. Barrière de protection, mur anti-escalade, déploiement de forces de l'ordre. On redoute des violences entre partisans des deux camps une fois que le nom du président élu sera connu.
Sur place pour Europe 1, Sonia Adredi. Sonia, vous êtes aux côtés des supporters de Joe Biden, l'attente est longue entre espoir et crainte.
Certains dansent, d'autres jouent de la musique, chacun patiente comme il peut. Des démocrates, dont de nombreux jeunes, étaient encore réunis hier soir sur la place Black Lives Matter. Les vies noires comptent aux abords de la Maison Blanche, dans l'espoir de connaître rapidement le nom du gagnant de l'élection. Un rassemblement pacifique. Beaucoup sont venus avant tout partager avec d'autres ce moment historique, comme Vashti, un consultant de 24 ans, qui a pris une semaine de congé pour l'occasion.
C'est une élection très importante pour les 4 prochaines années. Je ne me voyais pas aller au travail aujourd'hui et faire comme si de rien n'était. Je ne pense pas que nous avons besoin de manifester pour l'instant. Je manifesterai s'il continue de vouloir stopper le comptage des voix. Mais pour l'instant, pour jeter un coup d'œil, voir un peu quelle est l'atmosphère.
Les démocrates sont dans l'attente et même si nombre d'entre eux s'attendaient à ce scénario, le stress monte.
Nous sommes nerveux, oui, c'est clair. Il peut y avoir tellement de magouilles. Et je pense que c'est ce que notre président aime, les magouilles. Shenanigans.
Hier, Donald Trump a revendiqué la victoire bien avant la fin du dépouillement. Il a accusé les démocrates de fraude et réclame le recomptage des voix dans des états clés comme le Wisconsin ou la Pennsylvanie.
Reportage Europe 1 signé Sonia Dridi.
Les dernières heures de suspense dans ce scrutin présidentiel. Enfin, heures, ça pourrait peut-être être des jours, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on les suit minute par minute sur Europe 1.
Les États-Unis, auprès de 100 000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés hier, du jamais vu dans le pays en 24 heures. En France aussi, l'épidémie progresse encore. Plus de 4 000 malades désormais en réanimation, un seuil qui n'avait plus été atteint depuis fin avril.
Et cette question, le reconfinement est-il suffisamment respecté? On a un premier indicateur ce matin. Les données de nos déplacements enregistrées par Google et Apple. Qu'est-ce que ça nous apprend, Clément Le Saffre?
Eh bien, grâce aux données d'Apple, on constate que le deuxième confinement est plus lâche que le premier. En mars, lors de la première semaine après sa mise en place, nos déplacements en voiture avaient chuté de 80% par rapport à la normale. Cette fois, on observe bien une baisse, mais elle n'est que de 40%, on utilise deux fois plus notre voiture. Même chose pour les transports en commun, chute de 90% en mars, et là, c'est plutôt 40%, et c'est encore plus frappant pour les déplacements à pied, baisse de 80% en mars, contre seulement 55% aujourd'hui. De son côté, Google mesure la fréquentation de certains lieux publics. Il manque encore des données, mais on peut déjà comparer le premier jour de chaque confinement, et là aussi, on voit clairement que nous sortons plus. La baisse de fréquentation des commerces était de 60% le 30 octobre contre 70% le 17 mars. Même tendance dans les parcs et les stations de transport en commun. Résultat, toujours selon Google, eh bien, nous passons un peu moins de temps chez nous qu'au printemps.
Clément Le Saffre, données de Google et d'Apple qui sont anonymes, je le précise. Et à partir d'aujourd'hui, l'Angleterre se reconfine aussi. 56 millions d'habitants à la maison le plus possible pour au moins un mois.
Emmanuel Macron, lui, est attendu à la frontière franco-espagnole.
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme après l'attentat de Nice, vous nous le révélez ce matin, Louis Dragnel, le président s'empare de la question migratoire et personnellement.
Oui, désormais c'est le président qui décroche lui-même son téléphone, comme lundi lorsqu'Emmanuel Macron a appelé son homologue tunisien pour lui demander de récupérer ses ressortissants radicalisés que la France veut expulser. Pour cela, la Tunisie doit délivrer ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires, ce qu'elle a toujours rechigné à faire jusqu'à présent. Selon nos informations, Emmanuel Macron prévoit de faire la même chose avec les autorités marocaines et algériennes. Il faut savoir que parmi les 231 étrangers radicalisés que Paris veut renvoyer, plus de la moitié vient du Maghreb. Alors, ces coups de fil présidentiels ne sont pas donnés par hasard. Ils interviennent juste avant la tournée que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit effectuer à Malte, Tunis et Alger, précisément pour régler ces dossiers d'expulsion. Et je peux vous le dire ce matin, si le message ne passe pas bien, la France n'hésitera pas à réduire le nombre de visas qu'elle délivre chaque année et à revoir sérieusement, à la baisse, l'aide financière à ces pays. Une menace que la diplomatie française a toujours refusé d'agiter. Une menace qui, cette fois-ci, sur injonction présidentielle, pourrait bien être mise à exécution.
Les informations de Louis Dragnel pour Europe 1. Emmanuel Macron qui a tenu à rectifier via une lettre un article du prestigieux Financial Times paru hier mais retiré désormais du site internet. La France se bat contre le séparatisme, jamais contre l'islam, dit le président. L'article accusait Emmanuel Macron de stigmatiser les Français musulmans à des fins électorales.
Nous sommes le 5 novembre et c'est un jour singulier pour la lutte contre le harcèlement scolaire.
Première journée mondiale consacrée à ce fléau. Le cyberharcèlement notamment est en forte hausse en France, plus 26% par rapport à septembre 2019. Alors, il faut éduquer, et ce, dès le plus jeune âge.
Et on va y revenir juste après le journal avec mon invité inattendu qui est une ancienne Miss France qui a elle-même subi ce harcèlement scolaire. D'abord, on vous raconte cette initiative de cette directrice d'école dans le 19e arrondissement de Paris. Elle forme ses CM2 au repérage des signes du harcèlement. Virginie Riva.
Ils sont réunis dans la salle de classe qu'ils utilisent pour recevoir leurs camarades en entretien d'une quinzaine de minutes sans adultes. Ces CM2 sont des médiateurs. Leur mission, repérer des conflits et tenter de résoudre la situation à leur niveau avant que ça ne devienne du harcèlement.
J'ai un ami, il avait eu un peu de fièvre dans la classe. Il est retourné 3 jours après à l'école. Il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux qui disaient qu'il avait le Covid. Plein de personnes avaient peur et tout. Sauf que c'était juste une rumeur. Et donc moi je lui ai dit qu'il fallait plutôt en parler à la maîtresse que de garder ça pour toi. Et ça t'évacuait la chose.
Dans leur cahier de formation, les élèves ont noté une liste d'émotions. Peur, colère, honte, avec à côté leur manifestation physique. Pas évident de savoir interpréter les signaux d'alerte à 9-10 ans. C'est tout l'enjeu de la formation imaginée par leur directrice d'école, Micheline Chartami.
Les élèves qui ne parlent plus aux autres, les élèves qui ont des résultats qui chutent, ont mal au ventre, puis des conflits répétés avec d'autres personnes.
Si les faits se répètent ou sont graves, c'est alors un adulte qui prend le relais. La directrice fait également intervenir des agents de police pour les sensibiliser au cyberharcèlement.
Virginie Riva, et puis la sortie aujourd'hui du nouvel épisode de cette saga qui cartonne en librairie, L'Arabe du futur, tome 5 de la bande dessinée signée Riyad Satouf, l'histoire du jeune Riyad, enfance entre Syrie, Libye et France. Riyad a grandi dans ce tome 5, Sébastien, c'est un adolescent.
Riyad Satouf qui sera l'invité ce soir du 18-20 de Julien Bugier, rendez-vous sur Europe 1 dès 18h. C'était le journal de Jérôme Lacroix. Il est 6h12.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Lénaïque Monnier pour l'actualité des sports et cette soirée cauchemardesque pour les clubs français hier en Ligue des Champions.
Et oui, après l'OM, ce sont le PSG et Rennes qui sont tombés. Deuxième défaite pour Paris, battu 2-1 à Leipzig après un pénalty raté de Di Maria, un pénalty concédé par Kimpembe, les cartons de ce même Kimpembe et de ce Gueye. Les Parisiens ont complètement sombré et ils sont troisième désormais à 3 points de Manchester United et de Leipzig. Alors certes, il y a des blessés, des suspendus, mais ce n'est pas une excuse pour notre consultant Reynald Pedros.
J'ai vu ce soir une équipe collectivement très au point qui était Leipzig et une équipe qui n'était pas du tout, c'était le PSG. PSG, depuis le début de saison, change beaucoup de par les suspendus qu'ils ont eu aussi. Il y a eu le Covid, il y a eu les blessures, voilà, donc il a été amené à changer pas mal de joueurs à chaque fois. Mais moi, je vois les limites aujourd'hui de l'effectif du PSG. Un club qui veut gagner la Ligue des Champions, ou du moins qui veut aller dans le dernier carré, aujourd'hui, qui joue sans ses deux meilleurs joueurs offensifs, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de difficultés collectives à trouver des marques, à se procurer des occasions. Et dans cette équipe, je viens de le dire, il y a des joueurs qui sont plus ou moins en forme. Il faut qu'il y ait des associations qui soient fortes.
Reynald Pedros, consultant Europe 1 avec Lionel Rousseau. Rennes, de son côté, a perdu 3-0 à Chelsea. Là encore, les Bretons ont concédé 2 pénaltys. Ils sont derniers de leur poule. Ce soir, en Ligue Europa, Lille sera à San Siro contre le Milan AC d'Ibrahimovic. Et puis Nice se déplacera sur le terrain du Slavia Prague.
Le tennis est décidément tout réussi à Rafael Nadal.
Oui, en plein dans le mille, pourrait-on dire, puisque l'Espagnol a signé sa 1000e victoire hier à Bercy. Et c'est plus que symbolique, Corinne Boulou.
Il avait quitté Roland-Garros il y a 3 semaines sur une cérémonie de remise des trophées. Et bien hier soir, avant de quitter le court, Raphaël Nadal a eu le droit à une autre cérémonie dans l'anonymat du huis clos de Bercy. Elle venait saluer sa 1000e victoire après sa qualification non sans mal pour les 8e de finale. L'Espagnol rejoint ainsi un carré d'as puisqu'il est le 4e joueur de l'histoire après Connors, Lendl et Federer à compter 1000 victoires sur le circuit. Cela signifie simplement que je suis vieux, a commenté Nadal dans un sourire. En manque de rythme hier soir, le numéro 2 mondial reste le favori à Bercy pour l'un des seuls titres qui lui échappe encore.
Dans le reste de l'actualité, la préfecture de Vendée interdit toute sortie de 7 à 11h dimanche matin pour qu'il n'y ait pas de rassemblement au départ du Vendée Globe. Pas de tentation et départ sous confinement donc des 33 skippers. Et puis le MMA, ce sport de combat aussi violent que populaire à la télé, eh bien c'est désormais autorisé. Le CSA a donné son accord avec quelques obligations néanmoins. La signalétique déconseillée aux moins de 16 ans et la diffusion et rediffusion interdite avant 22h30 sur les chaînes gratuites.
Toute l'actualité des sports avec Lénaïque Monnier ce matin, il est 6h15.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et vous allez maintenant découvrir qui est l'invité inattendu du 5-7. Et c'est une ancienne Miss France qui est avec nous ce matin. Bonjour à vous.
Bonjour, c'est Iris Mittenard.
Bonjour Iris Mittenard, bienvenue sur Europe 1, Miss France 2016, Miss Univers aussi. Et vous mettez à profit votre notoriété aujourd'hui pour sensibiliser contre le harcèlement scolaire à l'occasion de cette journée internationale qui est consacrée à ce fléau. On va en parler dans quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
L'invité inattendu du 5-7 ce matin est Miss France 2016 et Miss Univers Iris Mittenard. On vous voit aujourd'hui à la télévision sur TF1, mais c'est pas notre sujet ce matin. On voulait vous donner la parole sur votre engagement contre le harcèlement scolaire. C'est une journée nationale qui est consacrée à ce fléau aujourd'hui. Pourquoi vous vous engagez sur ce sujet ?
C'était important pour moi de m'engager sur ce sujet parce que justement j'ai été victime de harcèlement scolaire petite. Ça m'a beaucoup affectée, mais ça m'a aussi forgé ce caractère que j'ai aujourd'hui. Et j'avais envie de prendre la parole, d'encourager les jeunes qui étaient malheureusement victimes de harcèlement scolaire à le dénoncer et aussi avoir un mot pour les personnes qui harcèlent aujourd'hui. C'était important de montrer que ça arrivait à tout le monde finalement et que c'était pas une fatalité en soi et que ça pouvait nous rendre plus forts.
Ça vous est donc arrivé, vous en avez souffert, c'était à quel âge ? Racontez-nous un petit peu.
Moi ça a duré de l'école primaire au collège, c'était des insultes, c'était des coups, c'était surtout dirigé envers mon physique parce qu'à l'époque j'étais très maigre. Et c'était difficile, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire des concours de beauté, que j'ai voulu me prouver que j'étais belle. J'avais besoin de prendre une revanche en fait sur ces gens-là. Et je pense que c'est important de jamais les laisser gagner sur nous. Leur prouver qu'ils ont tort, c'est important.
Vous parlez de moquerie, il y avait de la violence verbale, il y a eu aussi de la violence physique ?
Oui, surtout en primaire, je m'en rappelle, c'était des coups sous les tables. J'entrais chez moi, j'avais les tibias pleins de bleus. Et c'est vrai qu'en fait, à cette époque-là, on a un peu honte presque d'être une victime, quoi. On veut pas en parler parce que on n'a pas envie d'être dans cette position-là. C'est un peu un sentiment de honte, d'injustice et on n'ose pas vraiment en parler. Moi, à l'époque, je sais que j'en ai parlé à ma mère, qui avait évidemment compris, qui m'a aidée. Mais il m'a fallu beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je comprends et c'est pour ça que j'incite vraiment les gens qui pourraient se retrouver dans cette position à en parler à quelqu'un. Parce que ça fait énormément de bien. En fait, on garde beaucoup pour nous parce que c'est se dire victime, ça fait plaisir à personne. Mais en fait, en parlant, on se rend compte qu'on peut changer les choses. Donc, il faut le faire.
Comment réagissaient les enseignants, les adultes autour de vous ? Est-ce qu'ils en avaient pris conscience ? Ou est-ce qu'il y avait un côté un peu normal de moquerie entre enfants, assez classique ?
Pour tout vous dire, par exemple, quand j'ai fait ma visite médicale, même l'infirmière a écrit sur mon carnet « Attention, maigreur très inquiétante à signaler aux parents, etc. » Finalement, on se sent presque trahi, en fait. On se dit « Même l'infirmière, elle est de ce côté-là, en fait, du côté des harceleurs. Finalement, est-ce que je suis pas trop maigre ? Si tout le monde le voit, est-ce que j'ai un problème ?» Donc, on se sent pas forcément comprise.
Et ça a eu un impact psychologique hein, dans votre livre dans lequel vous racontez ces épisodes. Vous dites que vous avez mis du temps à vous trouver jolie.
Ce qui est quand même paradoxal pour une future Miss France.
Oui, j'ai mis énormément de temps à me trouver jolie, mais encore aujourd'hui, je pense que c'est une blessure qui est ancrée en moi. Mais oui, j'ai voulu, je pense, faire tous ces concours parce que j'avais besoin de me prouver que j'étais jolie. Je cherchais un petit peu, finalement, l'approbation de ma beauté, comme ça, par le biais de ces concours. Donc, c'était important pour moi, en fait. J'ai jamais voulu les laisser gagner.
700 000 enfants victimes de harcèlement scolaire aujourd'hui, c'est ce qu'on estime. Ouais. C'est plus d'un élève sur 10 qui en souffre au cours de sa scolarité. C'est énorme. Il y a un facteur souvent aggravant aujourd'hui.
Ça prouve qu'il y a un problème. Ouais. Quoi. Ça prouve que c'est un vrai problème.
Et il y a un facteur qui est souvent aggravant aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui déclenchent des phénomènes de cyberharcèlement. Vous les utilisez beaucoup, vous, aujourd'hui, comme ancienne Miss France, comme animatrice de télévision. C'est important, les réseaux sociaux, pour la notoriété, pour la vie publique. Mais qu'est-ce que vous dites aux jeunes, aux enfants qui y passent beaucoup de temps aujourd'hui? Attention, prudence.
Oui, bah déjà, moi, je leur dis, si vous avez un souci d'ailleurs, si vous voulez parler, écrivez-moi. Parce que vraiment, je regarde beaucoup mes messages. J'essaie d'être cette personne bienveillante et positive qui peut rassurer, qui peut dénoncer aussi. Donc déjà, j'essaie d'être présente pour les personnes qui en auraient besoin. Et oui, les réseaux sociaux, ça nous apporte beaucoup de choses dans ces moments-là, par exemple, où on est tous ensemble. Mais c'est aussi, ça peut être très négatif et ça peut être destructeur.
Vous voulez rajouter quelque chose?
Moi, je voudrais vraiment m'adresser aux parents pour leur dire d'ouvrir les yeux, d'être présents pour leurs enfants et de leur apporter une oreille attentive. Je pense que c'est vraiment par eux que les enfants vont pouvoir transformer justement ce harcèlement en quelque chose de peut-être positif, en une force, et en ayant beaucoup d'amour, de bienveillance de leur part, ils peuvent vraiment faire un rempart et annuler ce qui se passe à l'école. Donc je pense que ça passe par eux, comme moi c'est passé par ma maman à l'époque. Donc voilà, c'était le petit mot que j'avais envie de rajouter aujourd'hui.
Merci beaucoup Iris Mittenard d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1 à l'occasion de la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée.
Europe 1. The American Choice.
Sébastien Krebs.
Il est 6h24, vous êtes sur Europe 1 et on continue de suivre les résultats qui se précisent peu à peu aux États-Unis. Avantage Joe Biden à ce stade après sa victoire dans le Wisconsin, dans le Michigan ces dernières heures. Mais ce n'est pas encore suffisant pour l'emporter. Le dépouillement se poursuit dans plusieurs États, en Caroline du Nord mais aussi en Géorgie. Donald Trump en face n'entend pas accepter la moindre défaite. Il demande le recompte des voix dans certains États. Il dépose aussi un recours pour que le dépouillement soit suspendu en Pennsylvanie. On y revient tout au long de cette matinale. En France, plus de 4000 malades du coronavirus désormais en réanimation. La hausse se poursuit. 540 admissions supplémentaires hier. Et puis la deuxième défaite en 3 matchs cette saison pour le PSG en Ligue des Champions, battu hier soir 2-1 à Leipzig. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On vous retrouve dans un instant pour Notre Planète et on va parler de l'un de ses enjeux aussi, de cette présidentielle américaine. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et on retrouve Fanny Agostini, on écoute le monde changer, on regarde Notre Planète avec vous tous les matins et on regarde surtout vers les États-Unis avec hier une journée marquée par le lendemain de l'élection, l'attente des résultats, mais surtout le retrait officiel de l'accord de Paris par les États-Unis.
Oui. Oui, c'est chose faite. Depuis hier, les États-Unis ont déposé leur retrait de l'accord de Paris sur le climat, ce traité international adopté lors de la COP21 en 2015 sous la présidence française. Donald Trump a en effet usé de l'article 28 permettant à tout signataire de l'accord de s'en retirer sans pénalité 3 ans après son entrée en vigueur. Alors après avoir annoncé cette volonté de se retirer en juin 2017, Donald Trump est aujourd'hui le seul chef d'État à retirer son pays d'un des accords les plus importants de l'histoire de la planète, après probablement la déclaration des droits de l'homme.
Alors, les résultats de l'élection ne sont pas fixés. Si Donald Trump est réélu, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, pour le climat ?
Eh bien, rappelons déjà que les Américains sont les plus grands émetteurs historiques de gaz à effet de serre. Ils sont responsables de 15% des émissions mondiales aujourd'hui et cela ne compte même pas les émissions de CO2 des produits importés. Alors, facile à anticiper, comme il l'a fait tout au long de son mandat, Donald Trump continuera à redonner souffle à l'industrie américaine du charbon et du pétrole. Il démantèlera ce qui reste de la politique environnementale qu'avait tenté de mettre en place son prédécesseur, comme le plan énergie propre de Barack Obama, qui n'a finalement jamais vu le jour. Et de tous les ministères qui ont subi des coupures budgétaires sous Trump, c'est celui de l'environnement qui a le plus souffert. Et nous verrons sûrement encore un exode de scientifiques qui ont déjà massivement démissionné, intimidés par l'administration climato-hostile du président.
Alors ça, c'est Trump, et si c'est Biden ?
Alors inutile de dire que ce sera le jour et la nuit. Illico presto, Joe Biden signera, comme il l'a dit, un décret rétablissant la participation du pays dans l'accord de Paris. L'ancien vice-président souhaite engager une révolution d'énergie propre dont les composantes sont des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la mise en place de mécanismes de prix sur le carbone. Son objectif est une économie américaine entièrement décarbonée d'ici 2050. Alors certes, c'est plus facile d'annoncer ses objectifs que de les accomplir, mais ce qui est certain, c'est qu'alors que Donald Trump provoquait une déflagration climatique à l'échelle internationale en influençant d'autres chefs d'État dans son sens, tels que Bolsonaro, Poutine ou encore Johnson, un président comme Joe Biden permettrait d'impulser un nouvel élan positif à l'échelle internationale avec des États-Unis qui cesseraient enfin de tirer les politiques climatiques vers le bas.
Joe Biden l'a reconfirmé cette nuit dans l'attente des résultats. Il a tweeté cet engagement. Il s'engage à rejoindre l'accord de Paris sur le climat au premier jour de sa présidence. Donc ce serait le 20 janvier 2021 s'il l'emporte dans cette élection. Merci Fanny Agostini. À demain. Et on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Et c'est une journée ensoleillée, c'est une belle journée qui s'annonce, une belle journée d'hiver bien sûr, ou d'automne, comme vous voulez. Je penserais plutôt à une journée d'automne. Allez. Les températures ce matin sont parfois très fraîches, ou pas dire froides. Moins 3 à Charleville, 0 à Brive, 0 à Saint-Dizier, Lille, Dieppe, 1 petit degré. Paris, banlieue, 4, 5 à Paris-Ville, 6 à Biarritz et Cognac et 9 à Lyon. Voilà, dans la journée, après la dissipation des brumes et des brouillards qui sont encore très nombreux, ça c'est classique, eh bien nous aurons un temps ensoleillé avec des valeurs de 12 à 17 degrés, 12 dans la capitale, 12 à Épinal, et puis 17 degrés à Toulouse et Albi, qui seront les villes, disons, les moins froides. Voilà.
Une belle journée. Merci Laurent Cabrol.
Europe 1. Europe 1.
Présidentielle américaine.
Inside the American election.
Europe 1, au cœur de l'événement.
Sébastien Krebs.
Vous êtes sur Europe 1, vous ne ratez rien des résultats qui s'affinent de l'autre côté de l'Atlantique. Un nouveau journal avec François Geffrier et tout de suite. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
6h30 sur Europe 1.
J'ai beaucoup d'espoir. On a besoin d'un leader comme lui. On a besoin d'un leader qui va nous unir et non nous diviser.
Un début de bouillonnement d'impatience à Wilmington où les partisans de Joe Biden commencent à sentir le parfum de la victoire. Le démocrate a 264 grands électeurs pour lui, 213 pour Donald Trump. Nous verrons comment se passe le dépouillement sur la côte ouest, le Nevada et l'Arizona qui peuvent faire basculer le résultat. Et puis nous reviendrons sur l'attentat de Vienne en Autriche et une polémique qui monte sur les failles dans la chaîne de renseignement des autorités.
Après le journal, un nouvel invité pour mieux comprendre ce qui se joue aux États-Unis, Stephen Ekovich. Il enseigne à l'Université américaine de Paris. Avec lui, on va se projeter sur la suite, les jours, les semaines qui viennent. Quel recours le camp Trump peut-il utiliser? Sur quelle base? Y a-t-il vraiment des failles dans les opérations de vote? On prend le temps de bien comprendre après le journal. À suivre aussi Anis et Mbida pour l'innovation du jour. Et puis on retournera à New York pour une revue de presse américaine avec Xavier Yvon. Bon réveil, il est 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Alors qu'on se réveillait hier sur un scénario américain à suspense, la soirée et la nuit ont permis d'éclaircir un peu les choses en faveur de Joe Biden, mais ce n'est pas fini. Lubna Anaki, vous êtes à Wilmington, dans le Delaware, où se trouve le candidat démocrate. Ses partisans sont optimistes, mais tout dépendra de l'issue des votes dans 4 États décisifs.
Oui, tous les regards des démocrates sont ce soir sur deux états clés où Joe Biden est en tête, le Nevada et l'Arizona. Si ces deux états passent au bleu, l'ancien vice-président n'aura même pas besoin de remporter la Pennsylvanie où le dépouillement pourrait prendre plusieurs jours encore et où Donald Trump veut saisir la Cour suprême. Hier, Joe Biden a une nouvelle fois appelé à la patience et réaffirmé son optimisme.
Je ne suis pas là pour dire que nous avons gagné, mais pour vous annoncer que lorsque le dépouillement sera terminé, nous pourrons croire en la victoire.
Un optimisme partagé ici à Wilmington dans le fief de Joe Biden après une première nuit difficile et stressante. Eunice Lafette tient une galerie d'art où le candidat démocrate est venu plusieurs fois.
J'ai beaucoup d'espoir. Je soutiens Joe Biden que je connais depuis 37 ans. Il a du cœur. On a besoin d'un leader comme lui. On a besoin d'un leader qui va nous unir et non nous diviser.
Et à l'heure actuelle, selon les résultats partiels, Joe Biden est en tête dans le décompte des grands électeurs. La victoire à la présidentielle pourrait donc se jouer dans les prochaines heures.
Lubna Anaki au QG de Joe Biden dans le Delaware.
Et de la côte est, nous partons sur la côte ouest. Côte ouest largement acquise aux démocrates, mais qui attendent avec fébrilité les résultats de deux États, le Nevada et l'Arizona, où le décompte n'est pas complètement arrêté.
Oui, le correspondant d'Europe 1 à Los Angeles, Benoît Clerc, va nous dire comment certains de ces États ont pu changer un petit peu de sociologie électorale par rapport à il y a 4 ans.
Le film auquel nous assistons ici depuis 24 heures pourrait s'intituler « Une longue attente » et se jouerait en trois endroits clés dans l'Ouest américain. D'abord, la Californie qui a vu partir depuis 2016 environ 300 000 électeurs qui se sont installés en Arizona, faisant pencher la balance du côté démocrate cette année. Essentiellement concentrés dans la région de Phoenix et Tucson, qui représentent près de 65% des électeurs, ils n'ont laissé aucun espace aux ruraux, moins nombreux mais plus républicains. Avec 11 grands électeurs, Trump pensait l'État totalement acquis à sa cause. Le troisième acte se joue un peu plus haut au Nevada, où Trump est venu à 6 reprises pendant sa campagne électorale. En perdant 75% de ses recettes fiscales en raison de la fermeture prolongée de tous les casinos de Las Vegas et de Reno, l'État est quasiment en faillite et ne pourra pas compter tous les votes avant vendredi. Mais les relevés au sortir des urnes montrent déjà que les 6 grands électeurs voteront très probablement pour Joe Biden. Et si l'on additionne donc l'Arizona et le Nevada, le candidat démocrate n'a pas besoin d'un autre état pivot pour être déclaré vainqueur. Le suspense devrait donc durer encore un peu.
Le suspense va continuer à durer et vous le suivez sur Europe 1 minute par minute. Merci Benoît Clerc. Depuis Los Angeles, il est 6h35. On en vient à cette enquête qui se poursuit en Autriche, 2 jours après l'attentat islamiste dans le centre de Vienne qui a fait 4 morts et 15 de blessés. Et des failles apparaissent dans le dispositif de sécurité autrichien.
Oui, l'auteur avait bénéficié d'une remise de peine l'an dernier. Et surtout, les renseignements semblent avoir négligé une information très importante le concernant. Hélène Kohl est en Allemagne pour Europe 1.
C'est sur Facebook que la police slovaque a posté cette information hier matin. Le terroriste de Vienne est passé l'été dernier par la Slovaquie pour essayer d'acheter des munitions. Il faisait partie d'un groupe d'islamistes autrichiens, vite repéré par les renseignements slovaques, parce qu'il leur manquait des papiers officiels pour justifier leur achat et ils sont repartis sans munitions. Les Slovaques affirment avoir toutefois alerté leurs collègues de l'autre côté de la frontière en Autriche. C'est exact, reconnaît le ministre autrichien de l'Intérieur, mais il y a eu un problème de communication en interne et l'information s'est perdue. Il fait reposer la faute sur son prédécesseur. Mais la polémique monte, car c'est la deuxième grosse panne révélée par l'enquête. Mardi, le ministre avait déjà dû reconnaître que ses services avaient été bernés par le terroriste, qui leur a fait croire qu'il était en train de se déradicaliser alors qu'il se préparait à passer à l'acte.
Hélène Kohl, un nouveau cap franchi en France dans cette deuxième vague du Covid. Plus de 4000 malades sont en réanimation ou en soins intensifs dans les hôpitaux. Autre chiffre pour illustrer la vitesse de propagation du virus. En 2 semaines, ces 2 dernières semaines à peine, on est passé d'1 million à 1,5 million de cas recensés en France, en cumulé depuis le début de l'épidémie.
Le coronavirus qui contraint le Danemark à abattre des millions d'animaux, 15 millions de visons par précaution sanitaire.
Oui, le Danemark est le premier éleveur mondial de ces bêtes à fourrure qui attrapent elles aussi le Covid-19, contamination massive, Anne Le Gall.
Oui, c'est au nom du principe de précaution que le Danemark a choisi d'éliminer le plus vite possible la totalité des 15 à 17 millions de visons élevés sur son territoire. Les scientifiques le savent, ce petit mammifère est sensible au coronavirus. Il est facilement contaminé. D'ailleurs, des milliers d'abattages ont déjà eu lieu en Espagne ou aux Pays-Bas. Mais ce qui inquiète les autorités danoises aujourd'hui, c'est que chez eux, un coronavirus mutant a été repéré dans 5 élevages. Il a contaminé 12 de personnes. A priori, ce coronavirus mutant n'est pas plus dangereux, mais dans un contexte de recherche vaccinale, pas question de le laisser se multiplier, estiment les autorités danoises. Elles essaient de le bloquer à la source, m'a expliqué Jeanne Brugère-Picou, membre de l'Académie vétérinaire et de l'Académie de médecine, car le laisser dans la nature pourrait nuire à l'efficacité des futurs vaccins. Ces candidats vaccins ne tiennent pas compte de ce variant. Or, chez les visons, ils semblent plus résistants aux anticorps.
Anne Le Gall pour Europe 1. Ça va pas fort en foot pour les clubs français en Ligue des Champions. Le PSG battu 2-1 hier par Leipzig. Rennes battu 3-0 à Chelsea ce soir. Europa League, la petite coupe d'Europe. Slavia Prague, Nice et AC Milan. Lille à 21h.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1. Il est 6h38. Et j'accueille un nouvel invité dans le 5-7. Bonjour Steven Ekovic.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris et on a besoin de votre décryptage ce matin à mesure que ces résultats s'affinent aux États-Unis. On va aussi parler de ces recours d'ores et déjà déposés par Donald Trump. A tout de suite sur Europe 1, restez avec nous.
Présidentielle américaine, USA 2020. Europe 1, au cœur de l'événement.
Il est 7h20, vous ne ratez rien sur Europe 1 de cette présidentielle américaine. L'invité du 5-7 est donc Steven Ekovic, professeur à l'Université américaine de Paris. Les enseignements de la nuit, c'est donc Joe Biden qui remporte deux États très importants, le Michigan et le Wisconsin, deux États qu'il arrache à Donald Trump. De même que l'Arizona, en tout cas c'est très probable à ce stade. La tendance là ce matin, Steven Ekovic, elle est quand même bien différente des premières impressions d'hier.
Oui, mais c'était quand même prévisible, parce qu'on savait que les votes anticipés et les votes par correspondance étaient largement, et assez très largement, démocrates. Mm-hmm. Donc, dans chaque État, on a compté les votes de correspondance et des votes anticipés en premier. Biden, on a donné à Biden la marge d'avance.
Oui.
Maintenant, dans certains États, les États que vous avez énumérés, ces votes de correspondance et ces votes anticipés sont en train d'être comptés. Donc, ça fait que, en effet, Joe Biden prend l'avance et assez confortable. Donc, Joe Biden, à ce moment-ci, peut être assez optimiste. Mais
d'ailleurs, il
l'a
été hier soir. Il dit « nous allons gagner ».
Eh oui, oui. Donc, mais encore une fois, puisque les sondages étaient pas tout à fait exacts, toutes les prognosticateurs, tous ceux qui suivent les élections et tentent de voir l'issue sont quand même prudents. Mmh. On veut voir les vrais comptes.
Et ce dépouillement continue, on le voit sur les images des télévisions américaines, notamment au Nevada, en Géorgie, en Pennsylvanie, des nuits entières, peut-être encore une deuxième nuit de comptes qui commence là-bas. On parle d'un déluge de bulletins envoyés par correspondance, notamment à Philadelphie. Ce sera ça le principal enseignement de cette élection, participation massive.
Oui, on n'a jamais vu une participation aussi massive. Les politologues savent que dans chaque fois qu'il y a de la turbulence politique, ça augmente la participation électorale. Mm. Pas seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays. Donc, puisque cette élection et cette présidence étaient très turbulentes, c'est pas en fait étonnant qu'il y avait un tel taux de participation.
Et Trump joue sur ce retournement, donc vous le disiez, sur la base de ses bulletins par correspondance, qui sont plutôt favorables aux démocrates. Il estime que des bulletins sont apparus comme ça dans la nuit, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il affirme. Et il pointe des fraudes. Est-ce qu'il y a des failles ? Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il y a des failles dans ces votes par correspondance ?
Non, non. Parfois, il y a des erreurs parce que les gens ont mal marqué leur bulletin, mais c'est vraiment infime. Donc, on peut, à ce moment, dès maintenant, dire que dans l'ensemble, mais complètement, tous ces résultats sont fiables.
Tous ces résultats sont fiables, dites-vous, mais Trump demande à la justice de suspendre le dépouillement en Pennsylvanie, où on sait qu'il n'y en a beaucoup.
Oui.
Sur quelle base il peut demander ça ?
Un président ne peut pas. Non, il peut pas. Un président des États-Unis peut pas déclarer ou stopper un comptage. N'oublions pas que les États-Unis est un système fédéral. Chaque État a sa législation, sa façon d'organiser et de compter les bulletins, d'attribuer ses grands électeurs. À la limite, on peut demander aux instances juridique d'un certain État de faire des démarches juridiques, mais un président américain peut pas déclarer et stopper un comptage. Il faut dire que cette manœuvre, c'est vraiment une manœuvre de la part de Trump. Cette manœuvre, c'est pas vraiment une démarche juridique, c'est une démarche, je dirais, de propagande, de tenter de délégitimité toutes les procédures. Donc, il y a aucun juriste pour l'instant que j'ai vu qui prend au sérieux ces démarches juridiques.
En revanche, dans les États où c'est serré, et c'est déjà le cas pour le Wisconsin, il peut demander à recompter les voix. Ça, c'est possible.
Absolument. Ça, c'est possible, parce que ça tombe dans la législation, dans un cadre juridique légitime. Mmh. Mais il faut dire que même dans le Wisconsin, Biden mène de 20 000 voix, et c'est très rare, pas seulement dans le Wisconsin, mais dans d'autres États, qu'un candidat qui mène par une marge de 20 000 va perdre après un recomptage. Dans l'État de Wisconsin, il y avait déjà des recomptages dans le temps, mais c'était quand il y a la marge, la différence était quelques centaines de voix ou moins de 1 000. Les professionnels, encore une fois, on se méfie des professionnels, mais les professionnels disent que si la marge de victoire est bien au-delà de 1 000 voix, c'est très peu probable que ça va changer.
Que ça va changer quoi que ce soit.
Avec un recomptage.
En attendant, qu'est-ce qui se passe si on doit recompter dans un certain nombre d'États? Tout est bloqué, le vainqueur n'est toujours pas désigné?
Non, si on peut encore une fois, on va pas arrêter de compter. Hein.
Non, mais si on doit tout recommencer, ça va prendre des jours, j'imagine.
Ben là, on voit plus clair. En Pennsylvanie, c'est possible que ça va prendre encore quelques jours. Dans l'Arizona, je crois qu'on va avoir des résultats dans 12 heures ou plus, 24 heures. C'est très sérieux. C'est dans deux États, la Caroline du Nord et aussi la Géorgie. À la limite, si Biden gagne au moins deux de ces trois États que je viens d'énumérer, il aura moins besoin de la Pennsylvanie. Mais mais encore une fois, on est assez méfiant des
sondages. Sivan Ekovitch, un dernier mot. Est-ce qu'il peut aller jusqu'à la Cour suprême, Donald Trump, comme il l'entend? Ça peut aller jusque-là?
Peu probable.
Peu probable.
Il y avait dans le temps, en effet, il y avait une élection qui était tranchée par la Cour suprême. C'était l'élection de 2000. Où il y avait un contentieux dans l'État de Floride entre George W. Bush et aussi Al Gore. Mais quand la Cour suprême fédérale est intervenue, les constitutionnalistes américains ont hurlé parce que c'était à la Cour suprême de l'État de Floride de trancher et pas à la Cour suprême fédérale. De toute façon, dans ce cas précis, la marge de différence était quelques centaines de voix. Ouais. C'était pas quelques dizaines de milliers de voix.
Et pour l'instant, les marges sont supérieures. Donc, voilà. Pour l'instant, les marges sont supérieures. On va continuer à suivre ces résultats. Merci beaucoup. Merci Sivan Ekovitch pour votre éclairage ce matin sur ces recours juridiques. C'est compliqué. On voit que c'est aussi beaucoup de politique et même de propagande, dites-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Europe 1. The American Choice.
Sébastien Krebs.
Il est 6h49, avantage Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. 264 grands électeurs engrangés, il ne lui en manque plus que 6, mais le dépouillement continue dans plusieurs États pour la deuxième nuit après l'élection. Le Covid et la barre des 4000 patients en réanimation de nouveau dépassés dans les hôpitaux français. La dernière fois, c'était le 28 mars. Et puis les mots d'Emmanuel Macron. Non, la France ne se bat pas contre l'islam, écrit-il dans une longue lettre adressée au journal Le Financial Times.
La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse internationale. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Avant de retrouver Xavier Yvon pour la revue de presse internationale à New York, l'innovation du jour devrait plaire à ceux qui angoissent à l'idée de manquer de packs d'eau, de riz ou de papier toilette dans cette période de confinement. On a inventé une étagère qui commande toute seule les produits dès qu'on commence à en manquer.
Oui, alors, pour être précis, hein, c'est pas vraiment une étagère, mais plutôt une sorte de tapis qu'on pose sur l'étagère et sur lequel ensuite on va empiler ces produits. Hein, je sais pas moi, des couches, des capsules de café, des packs de lait, de la litière, ce que vous voulez. Ensuite, c'est un tapis connecté en Wi-Fi. Il est équipé de capteurs qui vont peser tout ce qui est posé dessus. Et dès que le poids descend en dessous d'un certain seuil, eh bien, on vous envoie une alerte sur votre téléphone pour vous dire « Attention, vous allez bientôt manquer de papier de toilette, hein, le grand classique. » Enfin, il peut même commander automatiquement sur Internet la bonne référence pour refaire votre stock.
Et on peut mettre tout ce qu'on veut sur ce tapis, des produits différents?
Et non, ça c'est la limite. Hein. Il ne reconnaît pas les produits individuels, juste le poids de l'ensemble. C'est pour ça que le tapis est proposé en plusieurs tailles, hein, 17, 30 ou 45 cm. Donc ça oblige à bien réorganiser ses étagères en regroupant sur un même tapis tous les produits d'une même référence. Alors c'est une technologie qui n'est pas nouvelle, hein, mais jusqu'ici elle était vendue exclusivement aux professionnels. Ça leur permet d'automatiser le réassort de leur gestion de stock. Et la nouveauté, c'est que c'est décliné désormais pour le grand public, avec Amazon par exemple, qui commence à le proposer pour les particuliers stressés qui veulent remplir leurs étagères automatiquement. Ça s'appelle le Dash Smart Shelf.
Ouais, je comprends bien, il faut quand même un tapis différent pour chaque produit. Tapis connecté qui fait votre liste de courses et qui fait même les courses si vous voulez. L'innovation du jour avec Anissa Mbida. Merci, à demain.
La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse internationale. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1.
La revue de presse internationale ce matin, intégralement américaine. Avec vous, Xavier Yvon, à New York. Xavier, les médias américains attendent évidemment, comme nous, hein, le résultat de l'élection.
Oui, et tous le disent, hein, la balance penche très fortement vers Joe Biden, avec prudence évidemment, les télés, les journaux. Et même Fox News semble résigné, même ses animateurs les plus trumpistes comme Laura Ingraham, qui se dit l'amie du président, elle a ouvert son émission tout à l'heure en cherchant des points positifs. Écoutez. The blue wave fizzles.
La vague bleue a fait pchit, a-t-elle dit en se réjouissant que le Sénat reste aux mains des Républicains. C'est pas encore tout à fait fait, mais c'est quasiment sûr. La presse américaine se projette d'ailleurs dans un mandat Biden et une éventuelle cohabitation avec un Sénat républicain. Cette présidence serait alors mort-né, explique un éditorialiste du Washington Post. Joe Biden peut jeter alors à la poubelle son programme. Il n'y aura pas d'assurance santé pour tous ou pas de nouvelles règles pour lutter contre le réchauffement climatique si ce scénario est avéré.
Et pourtant, hier, à la même heure, Donald Trump paraissait plutôt largement même en tête. Comment les médias expliquent ce qui s'est passé ?
Eh bien, ils expliquent ça par le mirage rouge, vous savez, rouge républicain. Tout le monde l'avait annoncé, écrit le Los Angeles Times. Ça fait des mois qu'on nous prévient qu'avec les bulletins par correspondance majoritairement démocrates et comptés après les votes physiques, eh bien, on aura l'illusion d'une vague Trump avant une remontée Biden. C'est exactement ce qui s'est passé et pourtant tout le monde est tombé dans le piège. Je vous parlais ici même hier de la manière fascinante de faire vivre l'élection sur les télés avec les écrans, les chiffres, etc., les pourcentages de votes dépouillés par comté. C'est hypnotisant. Oui, mais les médias ne devraient pas faire du grand spectacle avec le dépouillement, écrit un éditorialiste du New York Times. Il propose une solution. Il faudrait juste dire que le décompte a commencé et annoncer le résultat final quand il sera connu, même s'il faut attendre plusieurs jours. Et ils finissent avec cette métaphore. L'Election Day, le mardi, c'est la biopsie. Le vendredi, c'est le jour où le médecin vous dit ce que vous avez.
À part la manière de gérer cette annonce des résultats, est-ce que les médias tirent les premiers enseignements de cette élection, même si on ne connaît pas encore le résultat ?
Ah oui, l'élection révèle une division bien plus profonde entre l'Amérique rouge et l'Amérique bleue, selon le Washington Post. En écho, USA Today titre « La division de la nation est renforcée par l'élection » et USA Today constate « Le président sortant n'est pas une aberration rejetée au bout de 4 ans. Il a même reçu 5 millions de voix de plus qu'en 2016 », note le New York Times, qui conclut qu'il perde ou qu'il gagne, Donald Trump restera une force de division et de déstabilisation.
Et pour finir, il y a quand même un autre titre à la une de la presse américaine.
Oui, et c'est encore un chiffre, 100 000 contaminations au Covid-19 hier aux États-Unis. C'est la journée record depuis le début de la pandémie.
La revue de presse internationale ce matin depuis New York avec notre correspondant Xavier Yvon. Merci Xavier. Xavier Yvon qu'on va retrouver tout au long de cette matinale et dans le 7-9 de Mathieu Béliard dans un instant. Pour continuer de suivre cette élection américaine décidément pleine de suspense. À tout de suite sur Europe 1, 7h05.